Cette semaine au collectif, nous accueillons Yannick Belzile de Tribute Games, un studio montréalais créateur du jeu Mercenary Kings, disponible dès maintenant via PSN et Steam. Vous pourrez également écouter Yannick accompagné de Pierre-Luc et Gabriel dans le cadre de leur podcast intitulé « Trois bières », disponible sur RZO, rzoweb.com. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, mon nom est André Paquette, épisode 38 ce soir, accompagné de braves gens, mais surtout accompagné de Monsieur Belzile.
Bonjour.
Monsieur Belzile, mieux connu sous le nom de Trois Bières.
Entre autres, c'est un de mes noms.
Mm-hmm. Un de tes noms. Oui. Nomme-nous tes autres noms pour nous rafraîchir un peu aussi ce soir.
Jacqueline Bélanger.
Ça marche, ça.
Simon Pumba, ainsi que... Bourbon Gauthier.
Bourbon Gauthier
est un de mes noms.
Excellent.
Mais
carrière.
Oui, je suis un tiers de Trois Bières aussi.
Un tiers de Trois Bières.
Trois Bières.
On aimerait premièrement s'excuser aux autres deux tiers de Trois Bières de ne pas avoir pu étirer l'invitation ce soir. Ce n'est que partie remise. Mm-hmm. Car ce soir, on te rencontrait pour une partie de ta vie, Yannick, qui est principalement Tribute Games.
Oui, pour ma vie professionnelle, oui.
Ta vie professionnelle. Pour les gens qui ne connaissent pas Tribute Games, mets-nous en contexte un petit peu.
C'est une compagnie montréalaise. C'est un jeu de vidéo. C'est un studio de jeux vidéo indépendant qui était bâti de anciens gens d'Ubisoft, de différents gens de l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Et puis, c'est tout du monde qui se sont rassemblés ensemble pour faire le genre de jeu qu'ils aimaient faire. Et c'est des jeux qui se veulent de nature, avec une facture old school, rétro. C'est des jeux faits en pixels qui ont qui utilisent un gameplay old school, des mécanismes old school, mais on rajoute aussi dedans des notions plus modernes pour pas juste faire... quasiment un port de quelque chose qui aurait pu être fait au Super Nintendo en 92. Fait que c'est une version un peu moderne de gameplay classique. Et puis, on est tous des fans des jeux vidéo de cette époque-là, et c'est les genres de jeux qu'on aimerait faire, mais ce qui s'est passé, c'est que tous ont réalisé qu'ils ne pourraient pas faire ce genre de jeu-là dans les grosses compagnies où tout le monde travaillait, que ce soit EA, Ubisoft ou Gameloft ou des grosses places comme ça. Alors, ils ont décidé de partir leur propre business, leur propre compagnie et faire ces jeux-là eux-mêmes, pour eux-mêmes et idéalement pour plein de gens.
Ben merci beaucoup pour la mise en scène. On a eu la chance d'essayer Mercenary Kings, qu'on va pouvoir reparler un petit peu plus tard dans l'émission, mais Yannick, je sais pas si t'es familier avec le collectif, mais on a une petite tradition. D'habitude, on commence avec un petit tour de table pour savoir c'était quoi notre actualité, entre guillemets, ou plus sur quel sujet les collaborateurs veulent parler. Milter!
Oui?
T'as été silencieux depuis le début de l'épisode. Oui. Beaucoup de discipline, c'est génial. Je t'inviterais à partager avec nous. C'est quoi que s'est passé cette semaine, Milter?
Ouais, ben moi, j'ai rattrapé quelque chose que je ne connaissais pas. C'est quand que je lisais mes Superior Spider-Man, il y a eu le petit moment quelque part dans l'histoire qu'il y a Venom qui vient s'intermêler dans l'histoire, mais c'est pas le Venom que je connaissais depuis toujours.
C'est Eddie Brock?
C'est même pas Eddie Brock. Eddie Brock apparaît dans l'histoire où je suis rendu un peu plus tard, mais carrément pas Venom là, en tant que Eddie Brock et qui devient d'autres choses. Mais c'est Flash Thompson qui est dans Spider-Man, l'ami à Spider-Man. Ben, l'ami est un grand mot.
Le bully de Peter Parker,
le bully, ouais.
Fan de Spider-Man.
C'est ça, ouais, ça s'explique mieux de même. Mais dans le fond, ils se connaissent depuis longtemps, mais il l'écœurait, puis après, il est devenu... il idolise Spider-Man. Flash, il est allé dans l'armée, il voulait être un héros comme Spider-Man. C'est très américain, le côté... c'est quoi un héros? C'est un doute dans l'armée, tu sais.
C'est une de ces histoires de Spider-Man, en fait, de Venom, où
Brock n'est jamais devenu Venom, puis là finalement
non,
c'est quelqu'un
Brock
d'autre qui l'a eu.
Non, Brock
est
devenu Venom. C'est pas un what if. Brock a déjà été Venom, tout. Là-dedans, c'est juste que, dans le fond, on le voit dans, si je me trompe pas, c'est Amazing Spider-Man 654, si je me trompe pas. Wintermute va venir clarifier ça si vous avez des questions.
Certainement.
Mais c'est là qu'on comprend comment que Flash devient Venom, nanana, tout. Puis dans la nouvelle série, écrite par Rick Remender au début, les gens 22 premiers numéros, c'est dans le fond c'est Flash Thompson qui a Venom, qui le contrôle dans un sens parce qu'il veille pas en maudit fou, si on peut dire.
Okay.
Mais il est comme un mélange, c'est con à dire, là, de ben, Spider-Man, on peut pas se le cacher.
Ouais.
Mixé avec un genre de Captain America, Punisher puis Deadpool. Dans le sens que, ok, il n'y a pas l'humour de Deadpool, mais il y a le look.
Ok.
Dans, un peu ninja. Les pouvoirs de Spider-Man. Il Punisher, il tue un peu à la Venom aussi dans un sens. Puis ben, bien sûr Venom parce que c'est Venom. Fait. Sauf qu'il est très le personnage c'est à voir là, il est très normal si on peut dire. Il a l'air d'un gars d'armée dans un suit. Puis plus tard dans la série il se fait recruter par les Avengers. Pas un gros spoiler là. Il devient Agent Venom. T'sais, fait que c'est comme un comme un autre take, si on peut dire, sur Venom, qui est moins violent, sauf quand Flash se contrôle plus, puis la haine à l'intérieur de lui, comme le prend le dessus. Là.
Les fans de Venom, ils trouvent ça comment, finalement?
Moi, j'adore. Okay. J'adore, sérieux. Puis je lisais d'autres Venom il y a pas longtemps, là, puis des petites mini-séries un peu par-ci, par-là. Tu sais, je pogne des packs de comme, ah, j'ai pas lu ça, 18 numéros de Venom qui suit de telle année ou de quoi. Puis des fois, là, comme il y en a un que j'ai lu, ça se passe dans la neige. Venom il est dans un laboratoire, ça n'a aucun maudit rapport avec le Venom que tout le monde connaît, mais c'est comme l'origine un peu, si on peut dire. Tu sais, des affaires de même, faut que, ah, ok. Puis là, c'était comme un. Ça a été un reboot, tu sais, c'est sorti en 2011, là, ça, là.
Okay.
Ça a commencé en 2011, mais c'est pas un reboot, mais c'est un genre d'un autre take, puis il rencontre, il y a Peter Parker là-dedans, il rencontre Eddie Brock qui est comme devenu un preacher qui chasse les symbiotes, c'est vraiment spécial, puis
Wow,
Yannick, ça? Ou...
Non, ben je suis un peu au courant de l'idée de ce livre-là, je pense que j'ai lu un ou deux, j'aime Rick Remender.
J'ai lu le artwork un peu, là, tu vois le... Il y a de l'air comme plus d'un...
Pour les gens qui veulent voir un peu le artwork, on vous invite à aller voir Zombie Milter sur Instagram.
Ouais,
vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure que Milter lit ses comics, il y a toujours une case qui est publiée ou quelque chose comme ça.
Ou sur Twitter aussi, je fais ça là, le soir, tard. Là,
cette version-là de Venom est cool parce qu'on dirait que c'est un personnage comme qui aurait apparu dans un des jeux de Capcom, de Capcom versus Marvel, mais ils ont fait une histoire puis un cheminement avec par-dessus puis justement le fait que Flash Thompson a toujours idolisé Spider-Man là il y a
il y a la chance de devenir quelque chose,
il veut
puis...
être un héros aussi en tant que Venom, tu sais, il veut faire le bien là, tu le vois puis il utilise ça
mais c'est là que c'est cool, tu vois Superior Spider-Man que sans être un spoiler ça inspire même Doc Octopus qui veut devenir un héros puis là t'as Flash Thompson qui veut devenir un héros en tant que Venom, tu vois que le symbolisme de Spider-Man, c'est quand même assez contagieux dans l'univers.
Ouais, Non, mais en tout cas, c'est une très très bonne série. Là, j'ai vraiment, vraiment été surpris. Puis, j'ai été juste intrigué tellement par le passage du personnage dans l'autre série de Superior Spider-Man à un point qui m'a intrigué. Puis, je m'ai informé un peu. J'ai pogné ça. Puis, il me reste 20 numéros à aller. Puis, j'ai fini.
Donc, Milter, mis à part Agent Venom, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais partager avec les autres?
Les maudits vidéos qui partent seules sur Facebook, c'est de la merde. Puis, c'est ça.
Tu sais que tu peux l'enlever?
Ben, oui, je l'ai faite déjà, mais c'est juste ridicule, cette option-là.
Tu sais, François Charron puis Dominique Arpin nous montrent comment les désactiver dans leur blog post actuel sur Facebook.
Ah oui?
Allez voir ça.
Okay.
Puis, mais ça, il y avait d'autres choses, mais au pire, je le garderai pour une autre semaine. Là, je m'en souviens pas. Ça devait pas être pertinent comme la plupart des propos.
Yannick, avais-tu quelque chose de spécial? J'imagine, ces temps-ci, ça brasse un peu.
Oui, ça va. Regarde, il y a une semaine, Mercenary King sorti sur PlayStation 4, mais je vais pas parler de ça.
Pas tout de suite.
Ce samedi, j'étais voir deux. J'avais comme un trou de cédule. Et puis, samedi, j'étais voir deux films back-to-back. J'ai été voir un documentaire qui s'appelle Dune de Jodorowsky. C'est un documentaire qui raconte comment le cinéaste espagnol Alejandro Jodorowsky, qui est comme vraiment weird puis surréaliste. Dans les années 70, il a failli adapter Dune, le roman en film. Puis ça raconte l'histoire de comment que ça s'est... Il a essayé de le faire et comment ça s'est pas fait, mais comment que tout le monde qui a rassemblé ensemble pour faire son film, il a convaincu tout le monde, puis il est comme un gourou énigmatique et charismatique. Puis il a amené tout le monde genre dans un château pendant 2 ans pour créer une bible, un méga dictionnaire de Dune, dont regarde, il y avait comme 3500 storyboards. Le film était entièrement comme dessiné par Mobius. Son gars des effets spéciaux, c'était Dan O'Bannon, le co-créateur du premier Alien. Et puis, son gars, une de ses personnes des effets spéciaux, c'était H.R. Geiger, pré-Alien.
Geiger,
pré-Alien. C'est là que. Puis là, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le film. C'est là que O'Bannon a connu Geiger. Fait que quand le film, le projet a tombé en morceaux, éventuellement, Dan O'Bannon, il a écrit Alien, il était voir Geiger, il dit « Hey, viens faire les créatures pour mon film. » Puis le film explique comment que, juste avec ce meeting-là, quand t'as Alien mène à Blade Runner mène à William Gibson mène à The Matrix, que tout ça, ça vient du Dune de Jodorowsky, qui devient un film qui n'a jamais été fait, mais qui a comme été vraiment important pour notre
qui a influencé
culture.
Pas mal la pop culture.
Y a-tu beaucoup de, comme par exemple, des dessins, des exemples de qu'est-ce qu'il voulait faire avec le film?
Il
était juste, comme loin en production ou juste curieux?
Oui, il y avait comme juste comme un
livre.
Les parents d'un dictionnaire qui ont shippé au studio pour dire voici ce que le film va être. Puis plus tard dans le film, t'as plein de moments qui sont clairement croppés des storyboards, que vu que ce livre-là était dans plein de studios, qui ont été réutilisés ou réappropriés dans d'autres films. Il y a un moment qui est clairement quand qui ouvre le l'arche dans Raiders of the Lost Ark, il y a un moment qui est exactement comme ça dans le storyboard de Dune, mais tu sais comme 20 ans avant là, fait qu'il y a plein de moments comme ça. Le film de He-Man, le film de Master of the Universe, justement Mobius a fait des designs pour. Tu vois que ses premiers designs qu'il a fait, il les a fait dans Dune en premier, puis je les ai juste repris pour ça. Fait que c'est rempli de trucs comme ça.
C'est cool.
Fait que il est au cinéma du parc jusqu'au 11 avril, et puis sinon après, jeter un coup d'œil pour ça, c'est vraiment intéressant de voir ce dude-là super. Charismatique, tu sais, qui dit « Ah ouais, j'avais jamais lu le livre, mais un de mes amis m'a dit que c'était vraiment bon, j'ai essayé de le faire. » Puis c'était vraiment wild.
Mais ce qui est malade là-dedans, en plus, c'est que, tu sais, on avait la question dans le dernier AMA, justement, qu'on avait Mike qui nous posait la question « Est-ce qu'il y a une place dans le cinéma actuel pour quelque chose d'autre qu'un reboot, un film de super-héros? Ou... » Ça, c'est le genre d'affaire que tu vois que c'est le cinéma qu'on est peut-être pas au courant qui existe, mais ça, je paierais bien plus pour aller voir ça que bien d'autres films, parce que ça a influencé tellement de choses, puis ça doit être intéressant au bout, tu sais, un genre de documentaire, mais vraiment pop culture actuelle, puis tu sais, tu me dis 2 ans d'un château à l'autre bout.
C'est malade.
Ouais, ben c'est ça, ils racontent chacun comment ils ont été en Firouabé, comme « Vends tout ce que t'as, on s'en va en France, dans un château pour 2 ans, puis on va faire ça, puis on a tout généré ça. »
Wow.
Puis, mais tu sais, en plus, lui, il disait comme « Moi, je veux que le film soit 12 heures. » Il était vraiment...
C'est comme le Howard Hughes, mais du cinéma, dans le fond. «
12 heures. »
Monté.
Puis ce film-là, qu'il voulait le faire, c'était pré-Star Wars. Fait que c'était de faire un film de fantasy dans l'espace incroyable. Fait que c'est ça, Dune de Jodorowsky que j'ai vu. Et après ça, j'ai vu Captain America 2, que j'ai trouvé franchement merveilleux, qui m'a ému, et que le film a quasiment clenché 300 millions partout dans le monde.
Wow!
Ce qui veut dire que là, c'est ça, le bump d'Avengers marche pour tous les films.
Ouais.
Et puis, je l'ai trouvé vraiment écœurant. Warner Brothers pourrait prendre des leçons sur comment traiter un personnage noble et héroïque de du film de Captain America.
Très bien dit en passant.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que en termes d'affaires de box-office, c'est que dans les dernières semaines, Marvel avait comme une plage pour un film Untitled Marvel Movie qui sortait le même week-end que Superman Batman que Warner Brothers veut faire en 2016. Et puis là, récemment, ils ont dit « Ça va être Captain America 3. »
Head on collision.
En collision, puis avec l'argent que Captain America 3 est en train de faire en ce moment. Puis le Cap 3 va venir après un Avengers 2. c'est facile de penser ouais. qu'un film de Captain America pourrait battre, peut-être battre Batman et Superman ensemble au box-office.
Moi, je le crois en passant.
Ça semble possible.
Personnellement, comme fan, ben, fan de ces films de super-héros-là, voir qu'est-ce qui est arrivé avec Superman puis où est-ce qu'il s'en allait avec ça, moi, je
mais
ça. Même pas, moi je penche plus à America.
C'est pas juste America. Ça, c'est le fun factor aussi, on dirait, tu sais.
Oui.
Marvel,
c'est plus le fun.
Post Sony, on réussit à trouver un moyen de captiver là. Tu sais, t'es dans la salle de cinéma, c'est le fun. Ça. Oui, ok, regarde, c'est peut-être mettre le cerveau à off. C'est... En fait, même pas. Il y a du contenu dans les histoires, ça explose, c'est le fun. Il y a une profondeur dans les personnages qui est aussi dans les films de DC. Mais on dirait c'est que comment je peux dire ça? La tradition là. De DC resterait traditionnelle puis resterait...
C'est sobre.
C'est, oui, c'est ben, ça, c'est sobre. C'est...
Ben non, on peut argumenter que c'est pas ça pantoute dans le dernier Superman non plus.
Oui puis non, mais je trouve que même ben, si on essaie d'en donner un paquet d'affaires, ça avait de l'air... On se force pour essayer de s'adapter au temps moderne.
Il essaie de se forcer pour faire un super-héros cynique d'un coup. Là.
Ben c'est ça. Puis tu sais, Marvel,
c'est... pas ça,
c'est...
Superman. Là. Ça marche avec Batman en passant à ça, juste... Si on parle des ultimate ouais. good des deux.
Mais Batman, ça reste que c'est très dark et un peu depressed.
Mais c'est pour souvent, ça que je dis que ça marche avec ça, mais ça. Pourquoi faire ça avec Superman?
Mais ouais. Même les films de Batman de Christopher Nolan sont plus le fun
ouais, que
Man
of Steel.
T'as plus des séquences ouais. de, ouais. de Bruce Wayne, il est comme « Hey, j'ai un bateau en entier avec des ballerines, ouais, puis c'est ça, mon cover. » <Des ballerines. rire> il fait plein d'affaires de fun dans ses films. « Baigner
dans la fontaine, je viens d'acheter le restaurant.
» Exactement. Oui, il y a des affaires le fun, de même que dans Man of Steel, il n'y avait pas. Puis c'est pour ça que je pense que les films de Marvel sont vraiment populaires. Ils ont juste parfaitement casté tous leurs personnages, puis ils ont mis... l'accent sur justement ces personnages-là, puis qu'est-ce qu'ils ressentent, puis qu'est-ce qu'ils vivent, puis
ben, c'est ça.
Fun.
Ouais. Ben, c'est pas. Moi, Captain America, en tout cas, ça m'a touché proche. J'ai bien aimé. Là. Ils l'ont bien traité.
J'ai hâte de le voir, ça.
Puis, sérieux, il y a des moments comme. J'en parle souvent à Trois-Bières, comment je viens ému pour des affaires, mais il y a des moments dans Captain America où ils vont faire comme pleurer parce qu'ils m'amenaient dans la vie de Steve Rogers. Puis, comme, oh man, Steve Rogers, tu vis des choses. T'en parles pas à personne parce que t'es un homme des années 40, mais je ressens des choses pour toi.
Ça trop spoilé. Moi, ça m'a vraiment touché avec le Smithsonian. Je laisserais à ça, mais j'ai vraiment aimé ça comme
avant
kid,
que, avant que
j'étais le garçon là-dedans. Là, ouais,
ouais. Autant que Shannon dans le musée, dans l'homme d'Encino. Ou...
Ouais.
Je dirais que c'est... Regarde, ben, tu vois, Shannon et Captain America sont essentiellement le même personnage. Toutes les deux dégelés hors de leur temps. Mais
c'est une version moderne du Shannon.
Exactement. Mais vu que Captain America, tu sais, vu que... Il n'y a pas des dreads, lettres, puis il y a un meilleur vocabulaire.
Puis il y a l'absence de Pauly Shore aussi.
Exactement, t'sais. Oui, oui. Ouais. La belette, oui.
Ben merci beaucoup Yannick. Toi Eric, sinon, qu'est-ce qui s'est passé de bon?
Moi, j'étais allé voir Captain America aussi.
Je pense que j'ai embarqué sur le
pas en tout. Non, c'est correct, on a toujours des réserves pour ça. Mais quand ça vient à Captain America, là, j'ai adoré. Puis je trouve que c'est un super-héros, très le fun. Je sais pas quoi d'autre dire que ça. Moi, j'aime ça des personnages purs comme ça. On en a déjà parlé dans les podcasts du passé, mais pour moi, un super-héros, c'est quelque chose que tu veux aspirer à être. Pas quelque chose qui me retouche nécessairement. Ben,
toi, tu voulais en parler du film? Un peu?
Non.
Ben, les deux.
Ben,
là,
on peut parler
c'est
un peu.
Quoi, ben, vite, moi, j'ai une question. Là. C'est quoi, vous pensez, votre hypothèse pour le 3
Sans
spoiler.
Sans spoiler rien, je vais le dire. Là, c'est tout écrit noir sur blanc.
La fin de Captain America 2 va dire c'est quoi Captain America
2. C'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce qui se passe.
Parce que les autres, des fois, c'est plus.
Non, c'est.
Georges Saint-Pierre, zombie.
J'espère.
Ben, il est pas mort.
Malgré que c'était peut-être déjà ce rôle-là qu'il jouait, là.
Mais à part de ça, non, moi j'ai tu m'as surpris cette semaine avec la nouvelle de Hearthstone sur le iPad. Fait que je suis allé mettre ça sur mon iPad Air au plus vite. Puis c'est très dangereux, c'est Blizzard dans ma poche maintenant officiellement. Puis,
combien de temps tu passes aux toilettes depuis que Hearthstone sur le iPad est sorti, Eric?
Ben, sais-tu quoi, je l'ai fait une fois au début parce qu'il fallait que ça soit fait. mais après ça, je l'ai pas refait. Je l'ai fait dans ma chambre avant de me coucher. Juste l'idée de m'installer avec mon thé, prêt pour me coucher, puis jouer 2-3 games de Hearthstone.
Ouais.
J'aime les jeux de cartes de combat comme ça. Je suis pas assez calé pour être dans Magic, puis aller fou dans les cartes, puis acheter ça. C'est parfait pour ça. J'ai adoré.
Le Battle.net Messenger qui est intégré, que
ben,
tu
je m'en allais parler de ça aussi. Ben,
excuse-moi pour le sport.
C'est correct, là, mais ils ont updaté le Battle.net Launcher, parce que maintenant, si tu joues à des jeux de Blizzard comme moi, t'as le Battle.net Launcher qui a tous leurs jeux dedans. Mais ils ont décidé de vraiment séparer toutes les prendre toutes les connexions indépendantes au niveau du Battle.net puis tout merger. Blizzard, là, sont vraiment en train de bien se placer en ce moment pour avoir un gros chunk d'un marché très lucratif dans les prochaines années. Puis ça va être à travers du launcher, là, quand la manière que je le vois. Puis, tu sais, tu peux... Moi, je log in, là, tu vois tout de suite plein de gens qui sont logués dans Battle.net qui sont même pas en train de jouer, là. C'est juste le launcher qui est allumé, comme si Messenger est allumé dans...
Puis tu jases avec eux autres.
Tu jases. Je vais être en train de jouer à Hearthstone. Il y a un chum qui me demande si je vais aller leur rejoindre faire des arenas. Pendant que je suis allé faire les arenas, il y a un chum qui me dit « Tu veux-tu venir? Je suis en train de passer un tel tableau dans Diablo. Je peux te grinder une couple de niveaux. » Tu sais, ça se communique tout comme ça, là.
Diablo, qu'on est rendu avec une communauté qu'on a démarré aussi. On a un clan oui. Geek collectif, mais vu que les gens avaient déjà pas mal leur clan, puis que j'ai installé le jeu en retard, ben on a créé la communauté Geek Collectif, puis les gens qui veulent échanger avec nous autres, on joue dans le jeu, on est actif, puis on commence à avoir un peu de monde, fait que venez nous joindre, chercher des communautés, ça serait cool ça.
Mais c'est ça, là, Hearthstone, puis Captain America pour moi, puis c'est ça, j'ai recommencé à jouer beaucoup de Gran Turismo, excuse-moi, je me mélangeais, mais j'ai commencé à jouer ça aussi beaucoup, puis il fallait que j'en parle, parce que j'ai arrêté de jouer à Forza.
Eric et les jeux de course. Ouais, ouais. Moi, c'est un peu différent cette semaine. C'est que j'ai réalisé que je suis allé bruncher avec ma blonde à Montréal en fin de semaine avec des amis. Puis ensuite, on s'est promené.
Est-ce que vous avez brunché, faut que je demande?
Une place sur Mekin, puis c'était correct. C'était bien. Mais, tu sais, après ça, on a notre rituel. On va chez Urban Outfitters, on va se promener, on check des affaires de même, t'inquiète. Mais j'ai réalisé que il y avait un street artist que je connaissais pas son nom, puis j'ai enfin pu découvrir c'était qui.
Banksy.
Sticky Peaches.
Okay.
Sticky Peaches, que pour les gens qui vont l'avoir vu, vous prenez sur Saint-Laurent, vous prenez dans certaines rues à Montréal, vous allez voir, mettons, un Stormtrooper en veston, les mains dans les poches, ou la tête de Batman sur le corps de James Bond.
Oui, le George Clooney.
Exactement. Ouais. Fait que moi, je voyais ça, puis j'étais comme « Fuck, c'est bien beau, puis c'est bien hot! »
Le Batman que tu parles, il y en avait un exactement sur le coin de mon ancien bureau.
Puis vous voyez, ça, c'est Sticky Peaches, puis je l'ai trouvé par pur et simple hasard. Quand je park mon char à Montréal, j'ai beau prendre une photo de la borne de payage pour pas oublier mon parcomètre, je le perds tout le temps. Tu sais, c'est comme « Ah, oh, c'est une rue plus loin! » Finalement, c'était 5 rues plus loin, puis on va marcher un peu, mais... Puis maintenant, j'ai appris que je dois pas jamais quitter la maison sans mon appareil photo. Fait qu'on se promène dans les rues, puis à un moment donné, je vois une genre de vitrine qui est louée par la Galerie Roy, je crois. Galerie Le Roy ou je sais pas trop quoi. Puis à l'intérieur, c'est des œuvres d'art de justement de Sticky Peaches. Puis je vois ça, puis je fais « Wow, OK, ces œuvres-là, je les ai déjà vues, j'ai jamais pu les prendre en photo. Là, je me gâte. » Il y a une vitrine, il y a du glare, c'est poche. Je pogne les nerfs un peu.
Tu casses une fenêtre, là tu vas
casser cliché. Une fenêtre, je le vole. Mais rendu à la maison, j'agrandis les photos puis je vois le logo justement puis le site de la galerie d'art. Fait que là, backtrack la galerie d'art, trouve les choses, révolue tout le kit. Finalement, je trouve Sticky Peaches sur Instagram, partout. Quelqu'un qui vient de Montréal, je triperais l'avoir honnêtement au podcast à un moment donné. Je vais probablement essayer de l'avoir au podcast à un moment donné, mais cette personne-là fait de l'art qui pour moi est écœurant, puis c'est très synonyme de notre pop culture puis tout le kit. On mélange un paquet d'affaires, puis ça a été un peu le début de mon été. J'adore me promener à Montréal avec mon appareil photo puis prendre des clichés puis des trucs comme ça, puis je trippe ben raide là-dessus. J'ai eu la chance de le faire en France récemment, puis j'ai vu aussi le nouveau pavillon jeunesse au Musée des Beaux-Arts qu'on rentre à l'intérieur, puis on fait un petit pavillon, puis je me suis promené à l'extérieur, puis je sais même pas que c'est le Musée des Beaux-Arts. J'étais à côté, puis je fais qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a plein de... Le plafond est dessiné, les murs sont dessinés, tout le kit, c'est malade. Moi, je veux prendre des photos là-dedans, je rentre. C'est gratuit, pas de problème. Let's go, on commence à prendre des photos. C'est malade. Puis je trouve qu'on a une belle ville qui est cachée. J'ai eu la chance en France, justement, il y a Invader qui fait un synonyme un peu concept avec ça. Invader va prendre des carreaux de céramique. Puis il a commencé en faisant des Space Invaders, des choses comme
oui,
ça.
Oui, oui.
J'ai pris une photo sur le pont des arts où c'est Link 8-bit qui tient une clé dans les airs, que c'est Invader. Lui, dans le fond, il fait son art en céramique sur des planches de bois. Puis la nuit, guérilla style, il arrive avec un de ses chums et une échelle, puis il est clou dans la ville à quelque part où il est colle, puis il se pousse. Puis ce gars-là commence à être réputé mondialement. Il y a Sticky Peaches. Le street art me fait capoter.
J'ai vu, mais ça, un documentaire, il parlait de ça.
Ben, c'est ça. Puis c'est cool. Puis t'as du monde qui fouille pour trouver leurs œuvres d'art. Tu sais, t'as Under Pressure, justement, qui vont faire des affaires à Montréal. Honnêtement, si vous connaissez pas ça, le street art, allez vous gâter. Instagram en déborde, mais on a une ville pleine de ça. Puis moi, ça me fait capoter mes raids. Puis si vous envoyez du beau street art, mettez-le sur Facebook, puis envoyez-moi-le sur Twitter, @suzumakiqc. Honnêtement, je suis d'une phase que je veux voir ça.
Puis dis-y pas où ce que c'est, juste dans le kilomètre carré.
Ben, c'est ça que je trouve cool. Faites juste me dire approximativement c'est où, parce que c'est le fun de les découvrir, ces affaires-là. Tu passes, tu fais wow, ok, il faut que je prenne une photo. Puis ça rajoute au feeling un peu, je trouve, tu sais, de découvrir ça en se promenant en ville. Puis ça me fait triper. Fun, regarde, c'était mon sujet cette semaine, c'est mon coup de cœur.
T'as-tu vu le documentaire de Banksy, Exit Through the Gift Shop?
Je l'ai pas vu encore.
Il est sur Netflix, puis il est super bon.
Ça fait longtemps que je veux le voir, je l'ai pas vu.
Il est vraiment, vraiment bon. Puis dedans, il parle du gars que tu parles de Space Invader, puis il est là, puis tu le vois carrément aller, il te montre comment il fait, puis où c'est que ça a venu ses idées.
C'est bien cool. Puis c'est quoi, c'est Exit Through the Gift Shop?
Exit Through the Gift Shop.
Wow.
Excellent, okay. Excellent documentaire.
Mais regarde, c'est une affaire Netflix. Justement que j'ai passé carrément à côté de
Écoute-la
ça.
Écoute-la à soir.
Probablement. Mieux. Après le podcast, je vais l'écouter puis je vais faire un review de 500 mots dans deux semaines.
On fait tout arrêter d'enregistrer
le truc
là
qu'on
l'écoute.
Ouais, l'écoute. Finalement, fuck le podcast, on enregistre. Puis... Mais non, grosso modo, c'était mon coup de cœur cette semaine. Ça a été une belle découverte pour moi. Puis je vous invite à le découvrir. Mais là, moi, je veux savoir, tu as commencé à nous parler tantôt Tribute Games, tu nous as parlé un petit peu de l'origine, tu nous as parlé de...
J'ai vraiment bangé ça, tu devais recommencer ta phrase, j'ai vraiment bangé avec mon épaule.
Pas de problème. Donc là, tu nous avais mis une petite mise en scène un peu au débat.
André, tu vas peut-être vouloir commencer celle-là, c'est départ, pas
c'est
départ.
C'est ça, c'est départ, mais c'est pas grave. Écoute, d'habitude, j'ai pas peur d'avoir de l'air fou sur un podcast, sinon je couperais 90% de ce que je dis. Donc, fait qu'au début, tu nous as fait une mise en scène, tu nous as expliqué Tribute Games. Là, c'est la partie, la gang d'Ubisoft qui part une passion des jeux old school, tout le kit. Moi, je veux savoir, là, parce qu'il y a beaucoup de gens un peu qui sont embarqués. On a vu Indie Games The Movie,
oui.
Qui était le
j'ai
genre
des amis
de documentaire.
Qui sont dans ce documentaire-là. Ce sont les gens autour de Phil Fish, là, la compagnie de Phil Fish. Là.
Pas lui, les gens autour.
Les gens autour de... Non, je connais pas Phil Fish. Je l'ai vu à une convention il y a une couple de mois.
Est-ce qu'il t'a insulté?
Non, il semblait être un...
un chic type?
Il semblait être un chic type, mais il y avait un culte autour de lui constamment. Alors, il est bien correct. Là,
il est bien protégé,
correct, mais...
là, ouais.
Mais c'est ça, ça me tentait pas d'aller y parler parce que j'ai l'impression que tout le monde va lui voir, va parler à ce gars-là espérant quelque chose de ce dude-là. Mais tout le monde que tu vois autour de lui qui maintiennent le booth, c'est de mes amis, puis ils l'ont côtoyé, puis ils m'ont dit plein de choses à son égard. Et,
des bonnes choses.
Des choses.
Non, mais
des choses.
Je le hate
des choses.
Lui, là.
Regarde.
Le gars est spécial, puis il fait du stuff.
Ah, mais faut que tu sois spécial, honnêtement.
C'est même que moi, je le vois.
Je veux pas à la base.
Eric,
pas nécessairement spécial,
est spécial
comme ça.
Puis il fait les affaires à sa façon, puis le monde l'aime de même.
Ben oui, c'est ça. Il a son propre mode, puis ça marche pour lui.
C'est ça.
Mais
en passant, c'était-tu un April Fool, le FES2 en development?
Ah, c'est sûr que.
Ben, ça n'a pas été confirmé, ça encore.
Je sais pas, mais.
Parce qu'en même temps, c'était pas un April Fool que Mercenary King sort non plus.
Non plus. Il est sorti pour de vrai. Mais bref, juste pour dire un peu, comme dans Indie Games The Movie, on voit pas son. Il y a comme un partenaire mystérieux qui empêche que le jeu soit sorti. Là. De ce que j'ai entendu, le film donne un mauvais rôle à cette personne-là qui, si on savait tous les faits, peut-être qu'il aurait pas l'air d'une mauvaise personne.
Moi, je l'ai vu le film.
Juste dire ça.
Je vais dire une chose. Il y a de l'air d'un gars qui a bien du stress sur ses épaules.
Oui.
Puis que
il gère comme, mal.
On n'est pas tout fait pour gérer du stock comme ça.
Ouais.
Mais on est dans une époque maintenant où ce que tu peux faire des produits comme lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je m'excuse, mais Fez, c'est magique
ouais.
Quoi, comme jeu.
Oui.
Puis il est juste, il s'est fait mettre sous beaucoup de pression. Puis le film le montre sous beaucoup de pression. Puis les gens, on dirait qu'ils réalisent pas pourquoi ils capotent à des. Tout le monde capoterait à des moments de même, parce des que... fois. Ben lui, il est un peu extrême, c'est juste qu'il est spécial.
Parce que la vérité à cette heure, c'est que t'as plus juste une facette du monde. C'est en général à cause d'un documentaire comme ça, puis des réseaux sociaux. Tu vois toutes les facettes d'une personne, puis des fois, c'est pas tout le temps un portrait agréable, mais c'est ça quand tu vois une personne au complet.
D'accord, 100%.
Mais moi, la vraie question que je me posais par rapport à ça, puis j'aimerais ça qu'on débute par ça, c'est le début de Tribute Games.
Mm-hmm.
Des employés d'Ubi. Ton parcours, je sais pas si tu viens de chez Ubisoft toi-même.
Non, ben moi j'ai pas commencé la compagnie avec j'ai pas commencé la compagnie, mais c'est tout du monde que je connaissais avec qui j'ai travaillé avant,
okay.
dont le président et mon cousin. Et puis je peux te dire que quand on était vraiment jeunes, on avait comme 10-12 ans.
J'adore ce que ça sent.
On dessinait nos propres boss de Mega Man chez nous là. Puis on tripait, puis ça semblait, j'étais en Abitibi, en 1990, penser que des jeux vidéo, ça se fait si loin au Japon ou sinon une place à être vraiment loin aux États-Unis. Ça semble un rêve impossible, mais on dessinait des affaires comme ça. Et puis, on pensait pas que c'était une trajectoire. On pensait pas que ça allait être un arc. On pensait que c'était juste une ligne droite qui allait mener nulle part, tu sais. Puis, une couple d'années plus tard, à un moment donné, moi, j'ai eu mes études en graphisme. Puis là, mon cousin a commencé à travailler chez Gameloft, qui est comme une des grosses places de jeux vidéo sur cellulaire. Et puis, on a commencé à travailler là tous les deux. C'est comme lui, il m'a comme un peu fait rentrer. Je suis rentré là comme testeur. Puis quand j'ai pratiqué j'ai peaufiné mon pixel art, puis j'ai commencé à travailler là. Et puis, on travaillait là, je te dirais, en 2003. Fait que c'est pré-smartphone. Alors que t'avais comme des Nokia boboches mais qui étaient encore des écrans à pixels. Fait que nous autres, on a commencé dans les jeux vidéo. C'est sur le cellulaire, mais on faisait du stock en pixels. On
travaillait. Il n'y avait pas les contrats d'EA dans ce temps-là, je me sens.
Non, c'est bien avant ça. C'était c'était plus collé. Avant que ça devienne désavoué d'Ubisoft, là, ouais. C'était encore. On était dans le même building qu'Ubisoft à cette époque-là. Et puis, c'est ça. Fait qu'on a travaillé là, et puis on travaillait dans le pixel. Puis à un moment donné, les chemins se sont séparés, des affaires comme ça. Fait que je suis éventuellement revenu. Travailler avec eux autres quand ils ont fondé Tribute, je dirais que cette année, en fait l'an dernier, mais eux autres ils ont continué à travailler, puis j'avais de mes amis qui étaient là, fait que tout le noyau un peu où du monde de Tribute se sont formés à Gameloft quand on travaillait là tous ensemble, qui ont éventuellement été à Ubisoft. Et puis, il était sur le Game Boy Advance sur Ubisoft. Fait que là, il avait encore la chance de faire du pixel. Puis, travailler sur des jeux de franchise. Ils ont travaillé sur. Ils ont vu comme Star Wars épisode 3 en avance pour faire le jeu dessus. En fait, il y a eu un film, le film CGI de Ninja Turtles qui a eu une couple d'années.
TMNT.
Ouais. TMNT, ben, eux autres, ils ont pu le voir. Puis, ils ont fait un jeu là-dessus parce qu'ils étaient comme faire un jeu de Turtles. C'est la chance de faire une version. Super Nintendo Game Boy Advance vraiment nice de Turtle 2, tu sais, c'est essayer de recréer ça. On a travaillé sur.
Vous voyez cet amour-là dans ces jeux-là en passant, puis surtout Star Wars 3, je vais le dire, je trouvais qu'il y a, tu voyais de la passion.
Il y a du super beau pixel art dedans, je trouve. T'sais.
Mais il y a quelque chose de remarquable justement à un artiste qui va s'imposer une limite minimaliste, parce que le pixel art, on s'entend, tu sais, c'est beau, il y a des affaires, on voit en 3D, puis on fait oh wow, mais du beau pixel art. Tu sais, moi, il y avait Sorcery, dans le fond, sur iPad, qui est un jeu qui était très minimaliste. C'était une affaire en pixel art, toute la kit, mais qui est touchant à la limite parce que c'est très petit, le souci au détail, les choses comme ça. Star Wars 3, comme tu dis, les gens qui s'imposent le pixel art de nos jours, ben, c'est cool, là, parce que...
Nous autres, on trouve que c'est une stylisation, ça fait partie un peu de la philosophie de Tribute, c'est une stylisation qui est vraiment le fun, mais il y a quelque chose de... purement jeu vidéo dans le pixel art qui nous parle, nous autres, versus une image hyper réaliste qui essaie d'être un film.
C'est le seul média qui a vraiment utilisé ce style d'art-là.
Ben c'est ça, c'est comme purement c'est purement jeu vidéo quand tu regardes ça. C'est un peu quand des fois quand tu regardes des cases, des vieux comics, puis tu vois comme les points d'impression. Il y a quelque chose de sincère et de real à ce sujet-là. Fait que nous autres, c'est ça qu'on aime dans les jeux vidéo. C'est pour ça que, tu sais, tous les jeux de Tribute sont en pixels, puis ils vont probablement tous être en pixels, puis en genre de visuel jeu vidéo loufoque, non réaliste comme ça, parce que c'est ça qu'on aime.
Fait que ça, dans le fond, ça a parti d'une gang qui ont trippé dans leur jeunesse. Puis qui ont réussi à se retrouver par le fil des années. Mais moi, la question que je me pose, parce que t'as beaucoup de gens, puis on l'a vu dans Indie Game The Movie un peu, mais j'aimerais avoir ta version là-dessus. On part, puis on se dit du jour au lendemain, on ouvre un studio de jeux vidéo, on se lance là-dedans, on fait notre propre jeu, on est des gens qui travaillent chez Ubi, on est des gens qui travaillent chez Gameloft, on est des gens qui travaillent un peu partout. OK, let's go, du jour au lendemain, notre propre affaire. L'envers de la médaille, on l'a vu un peu, mais je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas assez d'exposition médiatique de nos jours.
Okay,
ça se passe comment dans ta tête, jour au lendemain, tu fais « bon, ben let's go, je me mets, je travaille à mon compte, je m'en vais dans les jeux vidéo. »
Ben, ça, c'est tout le monde maintenant, puis je dois dire que moi, j'étais pas là quand la compagnie a été fondée, mais vu que je travaille avec ces gens-là, j'ai eu l'histoire, puis mais justement, tu sais, il y a eu beaucoup de mes collègues qui ont resté chez Ubisoft en se ramassant, sont restés chez Ubisoft pour se ramasser de l'argent pour pouvoir partir pendant un an, deux ans, puis faire leur premier jeu ou fonder leur compagnie. Comme notre premier jeu comme de Tribute, qui est comme gratuit et disponible en ligne, c'est, ça s'appelle Ninja Senki. C'est Jonathan, le président de la compagnie, qui est aussi mon cousin. Ben, lui, il est parti quand il a quitté Ubisoft. Il est parti, puis il a fait le jeu lui-même, tout ça. Il l'a codé, puis je pense, il me semble que c'est sa blonde qui a fait la musique.
C'est
fait
cool.
Il est parti, puis il avait juste ramassé son argent. Il est revenu chez Ubisoft pour faire Scott Pilgrim, pour travailler sur juste Scott Pilgrim, pour justement, qui est un jeu qui
un
est
un de mes jeux préférés. Incroyable.
Ben, justement, puis c'est là que l'équipe a rencontré Paul Robertson, qui a éventuellement travaillé sur Wizard et Mercenary Kings.
Anna Managuchi pour faire la musique aussi.
Exactement, oui. C'est comme tout du monde.
Des passionnés, là.
Exactement, mais tu sais, on les a pas vraiment approchés, mais je pense qu'on aurait eu les moyens d'avoir eu Anna Managuchi pour le Mercenary Kings. Mais là, quand tu travaillais avec l'argent d'Ubisoft, c'était possible de le faire, là. Fait que c'est ça, c'est, il y a beaucoup de monde qui ont sacrifié, qui ont sauvé de l'argent. Tu sais, que justement, aller travailler sur Scott Pilgrim, ça a été, ok, là, on idéalement, pour faire un jeu vraiment écœurant, on ramasse notre argent, puis après ça, on s'en va, puis on forme notre propre compagnie. Et puis ça a été, tout de même rough, parce que...
C'est couilleux comme move, ça, là.
Ben, c'est ça, hein.
Ben, c'est, oui, puis parce que... Justement, ces affaires-là qu'on aime faire, on peut pas les faire dans ces grosses compagnies-là. Si on veut faire des affaires qu'on aime, faut qu'on fasse notre propre compagnie pour les faire nous-mêmes. Puis là, c'est que là, ça marche pour le moment et c'est vraiment le fun. Mais en même temps, je te dirais, pour parler un peu du développement de Mercenary Kings a été financé sur Kickstarter. Et on a demandé 75 000 $. On a eu 116, mais 116 000 $ quasiment pas payer le jeu en entier. Et ça, c'est que puis quand il y a du monde qui travaillait sur le jeu, dont justement le président et le vice-président de la compagnie ont vécu sur leurs économies pendant un peu plus d'un an, là. Ils se payaient pas, ils payaient comme le local, puis ils payaient tout le monde d'autres qui travaillaient sur le jeu.
Sauf fait que les autres se faisaient payer avant eux autres, dans le fond.
Et c'est juste une fois que Mercenary Kings est sorti sur Early Access, sur Steam, qui est sorti en août 2013, c'est commencé à vendre le jeu sur Steam. Soudainement, ils pouvaient se payer un salaire, et par salaire, je veux dire salaire minimum. Tout le monde se... Tout le monde a comme salaire minimum ou salaire minimum comme plus 1 chez Tribute, là, qu'on serait payé le trip dans une grosse compagnie, mais on est une place où on a la chance de faire ce qu'on aime et de la façon qu'on veut le faire. Fait que là, on prend tout le pay cut pour la passion. Là.
Ça me fait penser, j'avais été au Comic-Con et à plein des panels, puis il y avait Jason De La Roca de Execution Labs. Il parlait de comme t'as plein de la gang d'Execution Labs qui était là, du monde qui sont dans ces bureaux-là. Puis j'avais aimé, il avait dit une ligne, tu sais, quelqu'un a posé la question pourquoi que les gens y embarquent dans l'indie et tout. Puis il avait répondu d'une manière que juste lui, je pense, peut répondre comme ça. Mais il avait lancé vraiment que, tu sais, il y a des gens qui aiment retravailler des sourcils de Assassin's Creed pendant 6 ans de temps. Il y en a qui veulent faire de quoi de nouveau. Puis des fois, il faut juste qu'ils sortent puis ils fassent leur propre affaire. Puis moi, je pense que c'est le cool qu'on ait tellement de talent comme ça au Québec. Là, c'est fou. Là, puis ça s'est tellement bien développé. Là, j'adore ça. Ça me fait tellement triper ici.
Moi, il y a quelque chose que je me pose comme question, puis tu m'as ouvert une belle porte de garage bien grande et bien ouverte.
J'y vais.
On a déjà touché à Kickstarter ici, mais là, tu as apporté un autre volet que j'aime, qui est le pre-access de Steam.
Mm-hmm.
Est-ce que tu crois que cette vague-là permet à beaucoup de gens de se lancer en affaires en 2014, voulant dire, ou est-ce que ça... Ce genre de phénomène-là, Kickstarter, les early access, de vendre notre jeu en alpha ou en bêta ou peu importe, ça aide les studios à survivre, puis ça aide les gens à pouvoir partir leur shop, justement? Ou...
Ben, ça a été certainement en tout cas, que comme je te dis, justement, finalement, après comme Mercenary Kings, c'était supposé être comme à peu près un an et demi, il s'est avéré à être 2 ans, mais le Early Access a permis à justement qu'on puisse payer, que justement tout le monde puisse se payer, même si c'est un petit salaire, c'était tout de même que tout le monde puisse survivre et continuer la compagnie. Ça a gardé la compagnie en vie ou du moins en une meilleure shape. Alors, je pense que ça peut lancer du monde en affaires, mais nous autres, on avait déjà eu le Kickstarter. Il y avait déjà comme... Early Access, je dirais que le jeu était à 50-65% là. Et puis, je me rappelle pas quand je vous avais envoyé des codes, mais c'était tout de même tôt dans le développement du jeu.
Non,
pareil.
Mais j'ai joué, le plus souvent j'ai joué, c'était pendant ce temps-là, puis c'était assez spécial.
Moi, honnêtement, déjà là, je restais surpris de la qualité du produit. Là.
Ouais, ben tu faisais le mur de progression quand même. Là, mais
oui, oui.
Mais c'était malade. Ouais. Tu voyais où est-ce que ça s'en allait.
Fait que, je pense que si t'arrives avec un 55, un 65% que la plupart de les features de ton gameplay sont toutes là, c'est juste que les choses qui restent, c'est du polish, puis les niveaux jusqu'à la fin.
Mais le jeu, il y a une genre de... Tu peux jouer à répétition, puis farmer, puis...
Ouais.
Cette mécanique-là que... Donne-moi 6 niveaux puis un gameplay qui est le fun, je vais m'amuser en crisse avec ça.
Fait que c'est ça, je pense que c'est possible de faire de l'argent et de partir une business sur un truc qui existe déjà à 65%, oui. Partir from scratch, ça j'en ai aucune idée, puis même que je trouverais ça une proposition risquée. Là.
C'est parce que justement la raison pourquoi je me pose la question, c'est que, tu sais, en français on a beau dire, on ne peut pas faire une deuxième première impression, mm-hmm. justement. Le Kickstarter, on s'entend, les gens vont financer sur la promesse d'eux.
Mm-hmm.
Mais le Early Access, les gens essaient le produit. Crois-tu que... Puis je cherche le terme français, mais en anglais, ils appellent ça un defining moment. La journée où on ouvre ces portes-là...
Un moment de vérité.
Un moment de vérité, effectivement. Merci beaucoup, je vais le prendre en note. Le moment de vérité, on donne l'accès à notre jeu aux gens. Puis là, ben, ils peuvent payer d'avance, mais là, ils jouent avec le produit. Comme tu mentionnais, tu sais, tu dis, regarde, moi, je pense que si tu as 65% de ton contenu, ben pas le contenu, mais des idées qui sont en mm-hmm. place, le monde comprenne c'est quoi, puis ils vont embarquer. Mais versus un early access, selon toi, est-ce que ça peut aussi faire l'inverse, puis ça peut tuer un projet?
Faut que tu sois confiant, d'après moi, du produit que tu lâches. Parce que, mm-hmm. comme tu dis, ça peut tuer one shot s'il manque de quoi
sur
d'essentiel.
Sur papier,
là.
Tout est bien rédigé, mais quand le monde joue avec, les reviews sur Steam, parce que je lis des projets, puis j'essaye beaucoup de jeux puis sur Steam, quand Greenlight, moi j'adore ça, là, c'est des jeux à 20$ que je vais passer à peu près un 30-40 heures dessus, ça vaut son pesant d'or. Puis souvent, je vais lire les critiques, puis je fais « Ouais, non, c'est bien rough. »
Ouais, ben, regarde, ça, les critiques, vu que je deal avec les médias sociaux pour Tribute, puis je fais de la promo comme ça, les critiques, ça, j'en vois énormément, et puis il y a du monde qui savent de quoi qu'ils parlent, puis il y a du monde qui pense qu'ils savent de quoi qu'ils parlent, et ça, c'est...
Sur l'Internet?
Oui, regarde, je suis pas la première personne à en parler, mais ouais, ça arrive des fois sur Internet, oh. fait que les critiques comme ça... Faut que t'en prennes puis que t'en laisses, mais rapidement, tu vois ceux qui ont des bonnes choses à dire, ceux qui ont des choses moins intelligentes à dire. Mais encore là, je dirais que notre... vu que notre jeu, c'est un platformer, c'est un action platformer avec des éléments de crafting, déjà là, il vient dans une forme reconnaissable, fait que les gens sont capables de dire « Ah oui, ça, je pense que ça marche, que c'est bon. » Si t'allais avec une affaire entièrement... expérimental, weird, que quelqu'un peut pas le saisir la première fois qu'il joue, ça, je sais pas si tu peux partir avec ça, là, sur ces bases-là. Là.
Parce que je fais des parallèles avec ça un peu, mais tu sais, on a beaucoup de jeux, puis il y a beaucoup de jeux dans mon quotidien qui sont un peu comme ça avec du Early Access. Comme je te donne un exemple, le plus commun pour moi va être DayZ. DayZ qui a été un mod d'un jeu PC pendant des années, puis là, ça se rend compte qu'il sort en standalone. On peut l'acheter, on peut jouer, mais là, il manque des fonctionnalités qu'il y avait dans le mode, mais le gars, il dit « je veux prendre mon temps », des choses comme ça. Lui, c'est une franchise établie, mais des fois, j'essaie des affaires, puis c'est justement, tu sais, t'essayes le jeu, puis tu dis « qu'est-ce qu'ils veulent me présenter? Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur jeu? Ça va être quoi une fois fini? » Puis justement, le moment de vérité, il est pas ressenti partout, mais avec Mercenary Kings, quand tu nous as partagé les codes, puis qu'on l'a essayé, ça a été facile pour moi d'embarquer là-dedans. Parce que j'ai compris immédiatement, OK, ben ça va être exactement ça, il va y avoir des fusils, on peut les crafter, on peut faire telle affaire. Puis ça a été facile, puis même, vous aviez mis beaucoup d'éléments à l'intérieur, le multiplayer fonctionnait, les choses comme ça. À quel moment vous vous êtes dit, OK, on prend notre bébé là, qu'on travaille dessus, ça fait combien de temps, puis là, ben regarde, on le présente au public. Comment on choisit ça, ce moment-là?
Ça, en fait, je suis pas entièrement sûr que le moment ben, est entièrement choisi par nous. Ça, c'est vu que Vu que la compagnie a un certain pedigree à cause de la popularité, mettons, de l'art de Paul Robertson, puis le passé de la compagnie, d'être reconnu, on n'est pas tout le monde qui a travaillé sur Scott Pilgrim, mais on est une bonne partie. On a l'art, puis on avait un game designer, puis on avait toutes
ces grosses parties quand même.
Ben, c'est ça, tu sais, des bonnes parties marketables, reconnaissables, disons. Oui. Mais pas toute l'équipe, parce qu'il y a du monde vraiment talentueux qui n'ont pas travaillé avec nous autres, mais ils sont comme sur Skullgirls, puis des affaires comme ça. Là.
Fait qu'il y a du monde qui ont travaillé sur Skullgirls, qui sont chez Tribute présentement.
Ils sont pas chez Tribute, ça. Mais c'est nos amis. Cool, c'est nos amis, puis ils ont fait de l'or pour nous, puis des affaires comme ça. Là. Mais c'est de nos bros. Mais fait que je pense que ça, c'était plus avec... T'sais, Steam aussi, ils veulent tout le temps avoir une nouvelle affaire à promouvoir ou à vendre ou à dire « check ça, c'est notre nouvelle affaire, c'est cool ». T'sais, ils sont dans le fond, ils sont une maison de contenu et ils veulent générer du contenu puis ils veulent montrer que leur contenu est vraiment cool. Fait que ça, je pense que c'était ça a été une décision un peu. Steam dit « ça serait cool qu'on puisse le sortir là, on a une ouverture ». Puis que c'était à nos artistes puis à nos programmeurs de frapper cette ligne-là, ce finish line-là pour qu'il soit disponible en early access.
Un peu comme Super Meat Boy puis le Summer of Arcade, que tu les vois dans le film, puis ils en arrachent, puis ils ont une date butoir, puis
ben,
il faut que ça sorte.
Il y a tout le temps des deadlines, puis je pense que le monde, surtout en tant qu'artiste qui check leur affaire, c'est jamais peut-être assez bon, je sais pas toi comment que t'es, là, mais...
Ben, on... Absolument, oui, parce que regarde-moi, dans Mercenary King, j'ai écrit pratiquement... Il y a juste le How to Play que j'ai pas écrit dans le jeu. Le reste, okay. C'est tout des textes. Toutes les textes, toutes les histoires, les descriptions, les jokes, c'est tout moi qui ai écrit ça. Et puis puis après, je les ai traduits en français. Puis on était comme... fallait qu'on soit locked pour Noël, Noël 2013. Puis là, j'ai regardé mes affaires, puis je l'avais vraiment traduit vite. Puis je vois il y a des affaires qui étaient vraiment rough. Puis je suis comme, oh maudit, ça, je le réécrirais. Puis ces jokes-là, je réécrirais. Puis ces affaires-là peuvent être plus courtes. Puis si, puis ça.
Un exemple de quelque chose qui est rough, puis qui devient smooth.
Ben, sais-tu quoi, c'est tellement loin, puis il y en a eu tellement que je peux pas le dire, là, tu sais, je me suis donné un défi imbécile pour Mercenary King, ce que j'aurais pas dû faire, surtout à cette heure que je vois les critiques qui remarquent quasiment pas cet effort-là, mais dans Mercenary King, t'as différents grades, t'es level, t'as comme une dizaine de grades, et puis tous les personnages sont dans le hub, tous les personnages de ton support, quand tu vas les voir et tu payes sur Talk, ils disent quelque chose, puis à chaque grade, ça change. Puis là, je me suis dit...
Le respect augmente quand tu montes en grade, dans
le fond? Le respect augmente ou des fois, les personnages...
Les attentes.
...parlent des autres personnages dans le hub ou ils parlent de ce qui se passe dans le jeu. Je m'étais fait une idée, c'est que chaque personnage va parler du skills qu'il offre, comme la fille qui construit les guns, elle va dire une ligne, c'est guns, une ligne sur elle, une ligne sur quelqu'un d'autre dans le hub, puis une ligne sur les missions que tu es en train de faire en ce moment.
OK.
Fait que ça, puis là, il y a 6, 7, 8 personnages. Fait que là, ils ont chacun 4 lignes, puis il y a 10 rangs. Il y a comme une dizaine de rangs. Fait que chaque rang. Fait que là, chaque personnage a comme 56 lignes qu'il faut que je leur écrive chacun.
Oh boy.
Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Je me suis donné un challenge, et puis. Je l'ai lu deux fois dans les critiques. Quelqu'un dit hey, les dialogues sont drôles sur comme 15. Puis je pense que j'ai fait ça.
Ah, mais d'un autre côté, les dialogues sont drôles. C'est flatteur pareil. Merci, parce que quelqu'un l'a remarqué.
Merci. Mais ouais, bref, c'est ça. Fait que c'est comme tu disais, quand je l'ai traduit en français, puis en plus, on a une limite de caractère. Fait que là, je suis comme écrire une joke en 97 caractères en anglais. C'est plus facile que
97,
des...
c'est même pas un tweet, ça, là.
C'est même pas un tweet, non, c'est même pas un tweet.
Au moins, t'as pas de A commercial, le nom de la personne à écrire avant la phrase.
Exactement, on avait juste un petit box pour écrire ces affaires-là. Puis là, j'essaie de traduire en français, ils sont pas aussi drôles. Puis là, je dis, il faudrait quasiment que je réécrive les textes tout en français pour que ça marche.
On s'entend que dans le jeu, tu peux pas écrire des mots courts de tweet, exemple, là, que faut que ça soit un français correct. Puis...
Ouais, ou faut que ce soit comme quelque chose qui a du sens. Faut que ce soit une phrase qui a du sens, mais on parle juste plus longtemps en français.
Mais dans le flux créatif, là, parce que là, je me demande, puis j'ai jasé des fois à un moment donné, j'étais allé d'un lancement à minuit d'un jeu, j'avais parlé avec les gars d'Assassin's Creed, tu l'inquiètes. Mm-hmm. Moi, je vais avoir ton input là-dessus. T'as écrit les lignes, t'as écrit ce que les personnages disent. Mm-hmm. est-ce que tu dictes la personnalité d'un personnage ou le artwork va te dicter comment le personnage est, ou ça fonctionne comment chez Tribute dans votre processus pour créer un personnage?
Ben moi ça l'a été les deux, mais avec nos artistes, on a Paul Robertson puis Stéphane Boutin qui font toute l'art de Mercenary Kings et deux personnes.
Ok.
Et c'est juste deux personnes. T'as Stéphane qui design beaucoup les personnages puis qui a fait toutes les backgrounds. Puis les designs sont interprétés par Paul qui fait tout ce qui est animé dans le jeu. Tous okay. les personnages, tous les méchants, tout. S'il y a des animations dans le décor, il va se baser sur ce que Stéphane a dessiné et va créer une animation là-dessus. Puis vu qu'ils sont tous les deux des artistes vraiment incroyables, leur stock, moi je vois comme déjà une parcelle de personnalité là-dedans. Puis j'écris des alentours de tout ça, puis je mets mes propres jokes, quelque chose que je pense qui va être le fun ou qui va être agréable.
Les personnages, comme tu dis un peu, le visuel est assez prononcé du trait, pas mental, mais de mm-hmm. personnalité du personnage.
C'est ça, j'ai déjà une bonne place pour commencer. Ouais. Je suis pas perdu. Là.
En parlant des personnages, un peu, là, c'est quoi les genres d'inspiration que... Ben, je sais que toi, tu écris beaucoup du texte, mais quand ça vient à créer le jeu... C'est quoi les inspirations qui ont été vues dans l'équipe pour ça?
C'est tout que ça ait l'air cool, une affaire de vibe de film d'action années 80. Et puis moi, ce que j'ai pushé aussi, quand on est là avec les méchants, quand on parlait des méchants, c'est vraiment regarder Cobra dans G.I. Joe, qui c'est surtout dans les dessins animés.
Même... C'est déjà très bon,
continue. Comme le film quand ils gueulent leur tune au début, là?
Exactement, mais juste le dessin animé, puis aussi les comics de Larry Hama des années 80, Cobra est vraiment plus intéressant et texturé que G.I. Joe. Il y a tellement de choses ouais. qui se passent avec Cobra, puis là, je me suis dit que les méchants, y aillent ça aussi, c'est le fun. Comme mais j'allais aussi avec les détails que je m'étais fait donner au début. Tu sais, au début, ils savaient pas vraiment, il y avait juste un outline vraiment lousse d'histoire, fait que là, je me suis dit, ah, OK... tel méchant va être connecté avec tel méchant pour raison X. Mais comme je peux te dire, comme une idée que j'ai eue, le méchant, il y a comme un chien. Puis le chien conduit plein de tanks qui sont en forme de chien. Fait que là, puis tu sais, ça, ce qui est le fun, parce que justement, il n'y a aucun réalisme là-dedans. C'est vraiment plaisant. Fait que là, moi, je me suis dit, pourquoi que le méchant, le commandant Baron... trip sur les chiens, pourquoi qu'il y a un chien, pourquoi qu'il construit des tanks à un chien. Puis je dis, vu que c'est une personne, il dit, un chien, c'est une affaire que tu peux dompter à être attaqué. Fait que c'est comme un être vivant que tu peux faire comme une arme avec, dans le fond.
Okay, ouais.
Fait que là, je dis, ah, c'est pour ça que lui, il aime les chiens. C'est pour ça qu'il aime les chiens, parce qu'il peut dompter un chien à attaquer, puis à faire mal, puis c'est pour ça qu'il prend son chien, puis il bâtit des tanks en forme de chien, puis des affaires comme ça. Fait que je générais comme plein d'idées de même pour les méchants, puis pour les bons aussi. Tu sais, il y a plein de... Comme ça, ce que je viens de dire, c'est même pas dans le jeu. Je pense que c'est mentionné comme deux lignes dans le jeu, mais moi, je trouvais que c'était une idée vraiment écœurante.
Mais c'est à quel grade qu'ils sont mentionnés, tes deux lignes? Parce que t'as dit que ça changeait tantôt.
Hey boy, ça, je me rappelle pas, là. Ça me semble si loin, on dirait que j'ai fait ça il y a 3 ans, là, tellement que...
Puis ça a été combien de temps? T'as dit tantôt, c'était 2 ans de production pour Mercenary Kings?
En tout, oui, avec la sortie vraiment sur PlayStation 4, ça fait 2 ans, puis on travaille encore dessus pour réparer les bugs, puis les trucs du genre, là.
Mais c'est souvent ça aussi.
Je me suis juste dit, vas-tu avoir du DLC de plus? Es-tu déjà en train de faire de quoi là-dessus, ou tu peux pas en parler?
Pour l'instant, non, il y a pas de DLC de planifié, parce qu'on considère que le jeu, il est content là.
Comme les jeux dans le temps, là. Tu l'as acheté, puis c'est ça.
Mais il y a du stock, faut que je dise. Ouais. C'est pas,
un password fait, pour avoir le gars tout nu au pain comme dans le temps.
Justin Bailey avec les lignes.
Justin Bailey, oui. Ellen, Jerby, Fergie et G-Buzz en Metal Gear. Là, c'était comme des noms.
C'était avant, regardez, c'est Fergie comme la chanteuse des Black Eyed Peas. Eux autres, ils le savaient.
Kojima, il savait.
Mais moi, je me pose la question. Tu sais, dans notre tête, nous autres, c'est Mercenary Kings, 2 ans de développement, pop le champagne, let's go, puis on boit, puis ça finit là. Une fois que le jeu est sorti, là, c'est pas fini pour vous autres.
Non, pour nous, c'est pas fini, parce que justement, vu qu'on est une très petite équipe, notre bureau a 6 personnes dedans, présentement, tu sais, c'est comme ce qui nous manque en question de fonds et de manpower comparé à une grosse compagnie de jeu, c'est qu'on n'a pas comme 15 personnes qui testent tout le jeu, puis qui testent toutes les mardes et les choses qui peuvent mal aller avec un jeu. Fait que là, nous autres, on a une couple de mauvaises surprises, puis là, on essaie de travailler dessus, puis de faire des patchs puis envoyer ça à Sony, puis faut que ça se rende dans le jeu par la suite, faut que Sony les approuve, puis fait que là on est dans une grosse affaire de QA en ce moment, puis que nos prochains jeux sont faits par deux autres personnes parce que nos deux programmeurs principaux continuent à travailler sur stabiliser et rendre meilleur Mercenary Kings, puis après ça va être le portage, l'envoyer à d'autres plateformes.
Mais là c'est là qu'on voit la différence de plateforme. Tu mentionnes la plateforme Sony où on doit approuver les patchs, des choses comme ça. Là, tu me dis, le jeu est sorti, on fait les rustines, on patch, on améliore le jeu.
Rustinons, oui.
Le Early Access doit vous aider beaucoup dans ce dossier-là, parce que j'imagine le feedback des gens qui le testent avant que ça sorte, ça vous dit « Hey, j'ai trouvé un bug à telle place » ou des choses comme ça.
Ben, il y a eu ça, puis au Early Access, on a pu peaufiner bien des détails comme ça. Comme je te disais, tu sais, dans Mercenary Kings, vu qu'il y a du crafting, il faut que tu ramasses des matériaux. Puis au début, le personnage ramassait automatiquement les matériaux. Puis là, on trouvait ça correct. Puis là, ce que les joueurs nous ont dit, ils disent, regarde, quand on ramasse automatiquement les matériaux, le personnage se relève, fait qu'il peut se faire tirer dessus alors qu'il se relève quand il n'a pas contrôlé ce mouvement-là.
Wow. Okay.
Fait que là, on s'est dit, ah oui, c'est vrai. Fait que d'abord, il faudrait que tu pèses down pour te baisser, yep, pour ramasser l'affaire.
Choisis le moment où tu le ramasses.
Exactement. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que tu sais, t'es trop proche de l'arbre, tu vois pas la forêt, tu penses pas à ça, mais c'est une fois que plein de gens jouent, ils te donnent, ouais, ce feedback-là, t'es comme, ah oui, tu changes ça comme ça.
Okay, tu peux l'expliquer. Quand t'as mis le feu à trois bières...
Écoute, quand j'ai commencé à enregistrer cette émission-là, j'ai mis le feu, c'est devenu hot, c'était incroyable. T'sais. Je venais de mon podcast peu écouté qui s'appelait « Sel et vinaigre », et puis là, j'ai vraiment busté ça.
« Sel et vinaigre » était le titre.
Le premier podcast que j'ai fait, c'est justement, c'était... En fait, le premier podcast que j'ai fait, c'est une affaire qui s'appelait « Les voix de la raison » avec deux de mes amis, qu'on faisait juste dire des niaiseries, et c'était très mauvais, mais on s'amusait en le faisant. Puis je l'ai fait avec des gens très drôles, puis le fait qu'on n'a pas fait un bon podcast ensemble, c'était juste une expérience, peut-être un jour. Puis par la suite, j'ai fait « Sel et vinaigre », c'était avec deux autres de mes amis, que c'était comme une excuse pour qu'on se voie. Et puis, c'était fortement calqué sur le concept du podcast « Oh yeah, dude », qui est un de mes podcasts anglophones préférés. On faisait juste parler de nouvelles humoristiques ou loufoques ensemble. Puis c'est ça, c'était juste ça. Puis ça s'appelait « Sel et vinaigre » parce que le nom était dessiné dans un chat un soir avec un de mes amis, parce que à l'époque, je vivais
Undernet, là.
Non, c'était sur... C'est encore sur MSN. Shout-out à mes dogs sur MSN. Puis, c'est... On se parlait, puis à cette époque-là, je restais à Pointe-Saint-Charles, puis le dépanneur, l'autre bord de la rue, fermait à 10h et non à 11h.
What?
Fait que là, on se parlait des fois, puis là...
Pas fort.
Il était comme 9h. Des fois, il fermait comme à 9h30 en plus. Puis c'était juste l'autre bord de la rue. Puis j'étais comme... Je regarde par la fenêtre, il est fermé, puis là, je dis, est-ce que je veux des chips? Est-ce que je veux des chips? Je veux manger des chips à la vinaigre, des chips à la vinaigre, c'est juste ça que je veux, c'est juste ça pour ça pour exister en ce moment. Puis là, je capotais qu'il n'y en avait pas, puis là, mon ami a dit, c'est ça le nom du podcast qu'on va faire, ça va s'appeler ça, les vinaigres. C'était un merveilleux...
Est-ce que j'adore le podcast?
Il n'y avait pas un show sur Radio TVA que
sucré-salé. Moi, je pensais que t'allais dire que c'était un tribute à Guillaume.
Moi, je pense que Guillaume Douin a volé notre concept.
C'est sûr.
Milter,
fallait qu'il drop celle-là.
Tu sais, quand tu dis sur un petit bout, là...
Quoi?
J'étais sûr que t'étais... Tu l'as plugué, j'étais sûr que tu le pluguerais.
Parce
non,
que
pas
Maxime Landry. Ça n'a pas été prouvé encore, fait que, tu sais, Milter, il est...
Écoute, Yannick, puis...
Ce qui se fait à Fort Boyard reste à Fort Boyard.
Oh my God, t'es malade.
J'adore. J'aime ça commencer un segment sur un rire, donc on revient à une pause. Oui, Yannick, oui. J'ai une question du public pour toi. On a Bleuarg qui te pose la question.
Oui, Bleuarg.
Commentaire sur la défaite d'Undertaker à WrestleMania 30.
Je voulais
sur WrestleMania 30 en général.
Oh, shit. Hey, là, tu viens me chercher dans les... comme les gens de Tumblr disent, dans les feels. Sais-tu quoi? J'ai été... Je peux plus croire en rien parce qu'il n'y a plus rien de vrai. Parce que si le Undertaker perd à WrestleMania, blanc peut être noir, noir peut être blanc, haut est en bas... J'ai plus aucune certitude.
On parle de nos rapports.
Donc, t'es aucunement un fan de lutte.
Je suis le plus grand fan de lutte à cette table. J'adore ça, mais regarde, Undertaker, invaincu à WrestleMania, toujours cru qu'il serait invaincu à WrestleMania, parce que dans un monde où toutes les victoires sont scriptées, c'était la seule chose qui était comme coulé dans le béton, puis parce qu'elle était coulée dans le béton après 21 ans.
C'est qui l'a battu, CM Punk?
C'était Brock Lesnar, c'est encore pire.
What?
C'est encore pire, mais après 21 ans de victoire constante, même si c'est scripté, ça devenait la seule chose qui était vraie.
Le Brock, puis là je demande juste comme de l'extérieur du monde de la lutte, mais j'ai trippé lutte quand j'étais kid. Brock Lesnar, quand il l'a battu, c'était-tu avant ou après sa carrière flanquée avec UFC?
Hier.
C'est hier.
Ah, c'est ça qui est arrivé hier? Oh.
C'est arrivé hier. C'est pour ça que je vis des émotions. Parce que...
Them feels.
Wow. Fait que c'est, fait que c'est très après c'est, le fait qu'il n'a pas réussi dans UFC.
Il est revenu, là.
Il est revenu, mais c'est ça, l'affaire, c'est que Brock Lesnar est un jambon humain qui vient comme une couple de fois par année à la lutte, et puis il revient à WWE, puis il revient pour faire un genre de splash. Fait que si quelqu'un devait... Non, regarde, mettons que... Pas mettons, parce que c'est arrivé qu'Undertaker a été battu, mais si Undertaker devrait être battu, dans mon sens à moi, tu le fais battre, tu scriptes sa défaite.
The
par...
Rock ou quelqu'un.
Austin, The Rock, Hogan, il était là hier.
Ou
là.
Par une vedette qui est supposée être l'espoir le rising star, de demain, puis c'est comme un flambeau, ouais. Tout ça, un Bray Wyatt, ou s'il était encore là, c'était pas ça, parti, c'était CM Punk. C'est, non, à mon avis, c'est ça qui devrait être, ouais. Ça. Mais là, c'est Brock Lesnar qui est un jambon qui est là... 4 fois par année, ça n'a pas d'allure. Mais en écoutant WrestleMania, ça s'est passé comme au milieu de WrestleMania, puis ça m'a tellement surpris. Quand j'ai vu ça se produire, premièrement, le match était plate, j'ai regardé mon téléphone, puis là, j'ai entendu comme 1, 2, 3, on a eu un battu, j'ai regardé quoi? Ma bouche était grande ouverte, puis là, j'ai comme, ok, ma bouche est grande ouverte, je vais la fermer, puis ma bouche s'est rouverte, parce que j'arrivais pas à croire que j'étais en train de voir ça. Puis... ça l'a comme tout enlevé l'air du reste de mon WrestleMania. La fin qui était supposée être...
Ça a même pas fini avec ça?
Non, c'était au milieu, puis la fin de WrestleMania...
La fin, c'était Daniel Bryan.
Daniel Bryan contre deux de hyper génériques. Genre, tu sais, tu ouvres ton jeu de lutte, les deux creator wrestlers qui apparaissent, c'est Batista puis Randy Orton, là, sont génériques à fond. Et puis...
moi, j'aimais celui avec le nez, là...
Le nez. Ah, lui avec un nez.
Il a parti de Generation X dans le temps.
Triple
il y avait
H.
Un
Triple H. Mais tu vois,
il était là, Triple H.
Tu vois, Daniel Bryan a battu c'est Triple H pour accéder au match. Ça, c'était satisfaisant. Mais la victoire de Daniel Bryan, qui, narrativement, est écrite pour être un moment triomphant, moi, j'avais comme plus d'air pour être surpris et vivre mon WrestleMania parce que Undertaker avait perdu contre un jambon. Puis là, j'étais comme, fuck ça, man. Fait que là, j'ai continué à boire de la bière, puis je l'ai écouté jusqu'à la fin.
Je partage là-dessus tes émotions. Et rien qu'à checker les tweets du monde quand Taker a perdu hier, c'était comme... c'était pas, tout le monde disait, c'était pas voulu, c'était un vol, c'était quasiment le comment qu'il l'appelle l'événement avec Bret Hart à Montréal? Là,
le screw job.
Le screw job. T'sais, c'était quasiment, le monde, il collait quasiment à ça, comme non, wow, il y a de quoi.
T'sais, imagine, t'écoutes une émission de télévision avec comme un méchant qu'il faut battre ou qu'il faut tuer ou avec un plotline qui dure vraiment longtemps.
Fait Game of Thrones, là.
Peu importe, mais imagine que c'est
moins
comme.
Moins de pénis partout. Je dis ça de même.
C'est vrai, Game of Thrones n'a pas tant de pénis que ça. Parce que tu sais, il y a un personnage qui est un eunuque, puis moi je pensais à un moment donné, il allait faire un reveal qu'on allait voir son pénis avec des couilles, puis comme, what's up, je suis pas un eunuque.
Mais des pénis qui se font couper, des saucisses qui se font manger.
Puis là, voilà. Là t'entends, odor.
Puis, mais bref, c'est comme écouter un show qui dure depuis des années, puis t'as un guest star qui est apparu comme 3-4 fois dans la série, qui règle la série, genre. Qui clôt la série, pis c'est comme, comment ça se fait que c'est pas une des personnes qui est là à chaque semaine qui règle le problème?
Tu finis Seinfeld avec le soup nandi.
Ben, il a sûrement négocié de quoi, Lesnar, là, pour être là-dedans pendant les prochaines années. Qu'est-ce que tu veux? Ben,
Lesnar, il a drunk-texté McMahon à la dernière minute, il a fait comme, hey, j'ai besoin d'un chèque de paye, t'as tout ce cas pour moi.
Mais c'est parce que c'est une brute. C'est une brute, ce gars-là.
Il y a un coup de pierre à feu, genre, sa tête est un coup qui va dans ses épaules, comme Arthur Laroche.
J'suis un bon fan de UFC pis d'Ultimate Fighting, moi. Comme on prédit que j'ai. La lutte, j'ai délaissé ça pour le UFC dans mon adolescence à la fin des années 90.
C'est pas pareil.
Mais qu'est-ce que j'ai aimé de Brock Lesnar quand il avait embarqué dans le UFC, c'est que pour un bout de temps, je croyais quasiment que le drame backstage de la lutte était pour commencer à apparaître dans le UFC. Comme kid qui avait réalisé que la UFC c'était tout faux, puis mon rêve s'est brisé quand j'étais kid, tu sais, puisqu'on passe toute cette transition-là. Tu l'as passé à un moment, je suis sûr.
Ouais.
Puis moi, cette transition-là, je me suis jamais remis. Puis la UFC, j'étais content. Peut-être que j'étais un gars violent, mais j'aimais voir les gars se faire fêter dans la face pour de vrai. Puis Brock Lesnar avait apporté un petit peu le flair de la UFC pour un bout de temps, mais il ouvrait sa grande gueule, puis ça faisait muzzler. Il disait, comme t'avais carrément la direction de la UFC qui disait de non, c'est pas
oui,
le même,
c'est ça marche. Oui, mais c'est des cavernes, ce gars-là.
Mais c'est ça.
C'est pas un personnage, il est un homme de caverne.
C'est ça qui est, c'est ça qui est drôle.
Il essaie d'être plus noble là-dedans aussi, puis plus respectable.
Mais il y avait tellement des bons moments avec Brock Lesnar dans la UFC. Là.
Oh non, je m'en souviens. Mais...
mais Yannick, là, on vient de découvrir ton amour de la lutte.
Oui, oui.
Qui semble être un amour de longue date, solennel.
Absolument.
Entretenu et... vous avez une relation vraiment intime.
Oui.
Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce que là, il y a deux facettes de Yannick que je connais. Il y a Yannick, je podcast.
Mm-hmm.
Et il y a Yannick... En fait, il y a trois facettes. Il y a Yannick, je podcast. Il y a Yannick, je te surprends par mes dessins que je mets sur Instagram. Puis il y a Yannick, Tribute Games.
Oui.
Ça start de où? Ton cheminement, c'est quoi exactement? Tu sais, t'as parlé un peu. Là, t'écris les lignes de texte dans Tribute Games. Tu fais des dessins... qui me font capoter sur Instagram.
Merci beaucoup. At Yannick Belzile.
At Yannick Belzile. Il n'y a pas de problème. On fait des shameless plugs à chaque fois. Puis il y a trois bières qui me fait rire comme ça se peut pas. Merci beaucoup. Puis honnêtement, ça start où tout ça? Là.
Je le sais. Pas tant que ça, sérieux. je pense que ça vient tout de la même place et que, ultimement, j'aime raconter des histoires et j'aime. Je pense que c'est. J'ai toujours aimé. J'ai aimé dessiner parce que c'était pas un amour pur du dessin, c'était écouter des dessins animés quand j'étais jeune, puis les dessins que je voyais à l'écran, que c'est le vieux Spider-Man des années 60, mélangé aussi avec Goldorak, que j'écoutais, puis je trouvais c'est des images qui me fascinaient. Fait que je pense que c'est ça qui m'a mené à dessiner, puis même vraiment jeune, je faisais comme des genres de bandes dessinées. Fait que j'ai toujours comme travaillé le dessin pour faire de la bande dessinée éventuellement, pour raconter des histoires. Puis ça, je pense que c'est juste quelque chose qui s'est comme étendu dans ma vie. J'aime ça, raconter des jokes, trouver c'est quoi un récit. Puis comme justement, chez Tribute Games, j'étais engagé pour faire les réseaux sociaux puis écrire sur les jeux. J'ai pas été engagé en qualité d'artiste parce que justement, les artistes qui ont accès sont mille fois meilleurs que moi. Fait que j'ai rien à contribuer. Mais je peux contribuer à l'écriture puis à amener des structures narratives puis à amener des trucs narratifs qui sont le fun pour les jeux vidéo. Là.
Moi, question est claire.
Oui.
Puis très impulsivement, tu me parles de cartoon de jeunesse qui t'a inspiré. Mm-hmm. Le premier qui te vient en tête, qui a marqué ton enfance.
Qui n'est pas les deux que je viens de nommer.
Qui n'est pas les deux que je viens de nommer. sérieux, je te dirais que le troisième est probablement les Cités d'or parce que c'était un truc qui était en série.
Ouais.
Qui... quand tu y penses, quasiment tout ce qu'on a découvert quand on était jeune, c'était une demi-heure et c'était terminé. Mais les Cités d'or te demandaient de les suivre à chaque semaine, puis il y avait une histoire qui continuait. On a peut-être nos premières notions narratives continues des Cités d'or, je pense. C'est possible. Là.
C'est vrai que quand tu y penses, là, les G.I. Joe puis les E-Men, c'est quoi que moi j'écoutais, là, les Transformers avec...
Ouais, mais tout était anglais comme
puis
moi.
Il n'y a pas E-Men qui ont sorti Poivre là, récemment qui disait comme, qu'il y avait comme un deuxième degré à E-Men que tu l'écoutais puis c'était comme
ça
borderline.
Je pense que je peux dire
ça par moi-même. Là, ça...
Je peux dire par exemple pour G.I. Joe, il y a une des affaires qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, c'était un two-parter qui s'appelait There's No Place Like Springfield, qui est une histoire où... puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que je pognais souvent juste la deuxième partie, puis pas la première partie, mais la première partie est vraiment écœurante. Mais même là...
entre deux, trois interludes.
Ça commence avec Shipwrecked, le naufragé.
Le bateau, ouais.
Celui qui avait la petite sucre bien serrée.
Je pense que je sais exactement quel two-parter que tu parles.
Oui, oui. Parce que c'est l'affaire la plus creepy que tu as vue quand t'étais jeune.
Là, t'es en train de dire ça, là. Puis je vais pas le dire, je veux juste être sûr, là, mais je suis...
Moi, je m'en rappelle pas pantoute, fait que j'ai hâte d'entendre.
Je suis pas mal sûr que c'est je pense.
Shipwrecked et amnésique. Il se réveille que sa barbe a du gris dedans.
Ouais.
Et puis, il vit dans une banlieue puis il se rappelle plus de rien. Puis là, il va voir, puis là, c'est une banlieue où ce que tous les autres G.I. Joe vivent, puis ils sont plus, sont tout habillés en normal, sont tout habillés comme en dude, sont dans American Beauty, là, tout est banlieue.
Ils font des poids et haltères dans le garage en exactement, se croissant, pensant à faire de la voisine.
G.I. Joe n'existe plus.
Ah, c'est cool comme tech, ouais, c'est cool.
Madame G est avec Flint.
Quoi? Et
puis, ouais, ben justement, puis là, qui était le kick de Shipwreck, puis là, il se faisait, tu t'en rappelles pas? Non, il dit, t'as clenché Cobra? Comme on a tous battu Cobra il y a comme 10 ans. Puis on est tous en retraite maintenant, il n'y a plus de mal.
Ah,
c'est ça le message un peu.
Après Cobra,
il n'y a plus de weather control device, il n'y a plus rien.
Il n'y a aucun mal qui existe.
Il y avait un scientifique qui avait trouvé une formule pour transformer l'eau en explosif que Cobra voulait pogner. Tu l'as sauvé. Puis là, l'affaire que c'est cool, c'est que tu vois comme ça dans la première partie, mais moi, vu que je pognais tout. Je prenais tout le temps la deuxième partie.
Tu vois le bout qui capote.
Fait que là, le recap, il donne...
Tu avec le gars qui a angoisse, puis...
Ben, le recap te met à la même place que Shipwreck, parce que t'es comme... Tu te voyais qu'il tackle Commandant Cobra. Commandant Cobra tombe à terre, puis tu vois son casque tomber, séparé.
Ah, puis là, t'as l'espoir de voir Commandant Cobra, ouais. Podcast.
Oui, mais là, il coupe. Fait que là, t'es comme... Ben là, je l'ai pas vu dans l'épisode précédent. Puis je me rappelle pas de ça, parce que j'ai jamais vu. Mais Shipwreck s'en rappelle pas, lui, non plus. Fait que t'es comme un sur un avec son vécu. Puis là, finalement, il essaye de se rappeler. Puis là, il réalise qu'il... Essentiellement, le G.I. Joe devient la série de Prisoner. Où ce que...
il est sur un île. Mais il peut
c'est comme un Twilight Zone en même temps. Puis si je me souviens bien, il me semble qu'ils sont comme un genre de métal liquide des personnages. Vu que c'est des gens
d'hallucination. Non, ils sont comme une glu. Comme une glu qui semble séparant. Fait là, il y a sa
ça
femme.
Ça me fuckait bien raide, ça, quand j'étais jeune. Ouais. La fille, elle arrive en glu. Puis comme, je suis comme...
Tu te souviens plus de ta petite fille. Puis là, elle se transforme en glu. Puis il est comme...
Pendant ce temps-là, t'as Hasbro qui make it rain ben, avec les figurines qui vendent.
Moi, j'ai 4 ans, puis j'essaie de comme... comprendre hein?
ça c'est de la fucking folie. C'était écrit par un auteur qui s'appelle Steve Gerber, qui écrivait des Marvel Comics des années 70. Vraiment weird là. Ouais, mais bref, il a amené ça dans G.I. Joe, puis c'est merveilleux. Ouais, c'est ça là.
C'est ça.
Il écrivait les Defenders, puis il y avait des affaires weird. Mais bref, ça m'a vraiment marqué. Et puis je dirais que c'est comme les 3-4 affaires qui m'ont marqué. Hey, quelle parenthèse j'ai faite.
Non, mais c'est fou que tu parles de ce moment-là, parce que quand je pense à G.I. Joe, la première affaire je pense, c'est le marin qui parle à la fille qui se transforme en glu. Puis je suis comme, pourquoi que j'ai tout le temps ce souvenir-là en premier qui me vient? J'essaie dès qu'il arrive.
Moi, c'est bizarre, parce que le premier souvenir que j'ai des G.I. Joe, c'est le sergent Slaughter qui fait chier recrue.
Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, on est tous arrivés à G.I. Joe de façon différente. Pour nous autres, c'est un psychodrame.
C'est ça. Moi, je suis comme... J'aurais aimé ça de l'écouter.
Et je m'excuse, mais Sergeant Slaughter, Bat Undertaker, ça aurait été mieux quand même.
Il s'en vient pas mal vieux. Peut-être jadis.
Mais shout-out au commandant Cobra, que v'là une couple d'années, tu sais, on parlait à Ronde, v'là pas longtemps, d'Attack of the Show. Puis dans le temps des Olympiques, wow. Dans le temps des élections... Tu sais, dans le bout, tout ce que Obama se faisait élire. Mm-hmm. Eux autres, à Attack of the Show, c'était le commandant Cobra qui se présentait aux élections. Puis c'était tellement ma joke que... Puis je voulais la partager avec un plaquet de monde. J'en parlais à eux autres. J'étais comme... Le commandant Cobra se présente aux élections. Puis j'en faisais écouter une vidéo. Puis le monde, que c'est plate, ça. Fuck off! T'as pas eu de jeunesse? Cobra. Tu comprends pas ça?
Mais sur
Cobra Commander, man!
Sur Twitter, Cobra Commander est hilarant. Je dis ça de même.
Oh, il est malade.
Tu réalises pas comment c'est tough pour le gars d'imiter la voix de Cobra Commander? Comment il fait en souffrir plus. Sa gorge pour notre divertissement? Come on!
Avec le weather control device.
Sur Twitter, c'est moins compliqué. Il fait juste tweeter ses plans.
Là, tu nous as parlé un peu de façon contournée d'où ça a commencé. Mais trois bières.
Oui.
Balado diffusion.
Oui.
Pierre-Luc, on s'excuse. Mais ça a parti où, Trois-Bières? C'est quoi Trois-Bières? Parce que des gens qui étonnamment vont peut-être nous écouter puis ils écoutent pas Trois-Bières encore, puis je catch même pas pourquoi.
Ah, je suis sûr que ça, je suis sûr que ça arrive. Mais bref, Trois-Bières est une émission où ce que moi-même, Pierre-Luc et Gabriel Caron, une humoriste, on est ensemble puis on pige des sujets que le monde nous envoie puis on en parle. Pendant 20-25 minutes, ce qui veut dire le temps d'une bière qu'on boit tous. Et puis, quand on finit de boire nos bières, le sujet est terminé, puis c'est ça qui se passe.
Des fois, je l'envoie des sujets. Mais...
Ça arrive. On les pige quand on fait des blitz souvent. Et puis, ce qui arrive, c'est que l'émission est née parce que J'étais devenu, j'ai connu Pierre-Luc justement par Twitter, et puis on est comme devenus amis, et puis on restait dans le même quartier, on restait tous les deux à Pointe-Saint-Charles. Moi j'étais à Pointe-Saint-Charles, puis il était sur la frontière de Verdun, et puis il y avait entre nous...
Proche de la Well?
Exactement, entre nous, très proche, il y avait le magnifique bar, la Chic Régal, où ce qu'on, on a commencé à se rassembler, puis... On se voyait le soir, puis on allait boire comme des grosses bières là, puis on parlait de plein de sujets, puis on en parlait vraiment longtemps.
Aviez-vous des sujets que vous pigiez pour discuter, que vous écriviez?
Ça fait weird un peu.
Ben non, c'est pour ça que je me demandais. On partait surtout de lutte et des fois un enjeu social, mais surtout de lutte. Et puis.
Mais la lutte est un enjeu social.
Écoute, c'est des échecs humains, puis c'est là que nos drames vivent. Mais. fait que là, Pierre-Luc, il, à un moment donné, il a dit: hey, je pense que c'est ça. On fait un podcast de ça, parce que Pierre-Luc à l'époque faisait un podcast de lutte, puis là à cette heure qu'on pouvait se parler, il pouvait parler de face à face de lutte avec quelqu'un, ça lui dérangeait moins de plus faire un podcast. Fait que là, il était comme...
Est-ce que vous le saviez que vous étiez deux fans de lutte? Ou...
Oui, oui, c'est, okay. C'est une des affaires qu'on a bandées.
C'est le genre de
sujet
que c'est difficile à aborder des fois avec quelqu'un.
Tu peux pas aborder ça avec
que
le monde.
Que tu découvres, tu sais, la lutte, non, moi... Ah, moi j'aime ça. Ah, oh, ouais. Ah, ben, okay. Moi aussi j'aime ça.
Tu peux pas t'adresser à tout le monde avec c'est ça, là. Ouais. C'est dommage. Il y a des préjugés. Puis, je pense que c'est le plus gros préjugé de notre époque et c'est dommage.
Ouais.
Et puis, là, on a commencé à parler. Puis là, lui, il a dit: ah, ouais, on parle. On fait juste comme parler le temps d'une bière. Puis ça pourrait être un podcast. Je dis: ah, oui, c'est une bonne idée. Fait que c'est comme ça que trois bières est née, là, tu sais.
Ouais, puis trois bières dans le fond. Fait que là, le public vous envoie des sujets.
Mm-hmm.
Vous prenez les 10 sujets.
Mm-hmm.
Et là, il y a une cloche, il y a des bières, il y a...
Oui, oui, oui.
C'est une excuse pour boire des bières.
Ben, oui, mais non, parce que, écoute, il y a des sujets sociaux qui se discutent là-dedans, puis on prend des décisions, là.
Mm-hmm. Oh, mais il y a de tout genre de sujets, parce que les miens, ils sont pas si...
Social que ça.
Ben, c'est ça, des fois, exemple.
On essaie de parler de plein de choses variées, puis idéalement, ça fait une bonne conversation pendant 20 minutes ou 25 minutes, et puis on espère que c'est divertissant, et puis c'est moi qui fais le montage après. Des fois, c'est moins divertissant, des fois, ça marche très bien, des fois, ça marche moins bien, fait qu'on le monte. Puis,
c'est sûr que le sujet vient jouer pour qu'est-ce que tu as à dire dans un sens. Là,
exactement, tu sais, des fois c'est difficile, comme dans un de nos premiers épisodes, à un moment donné, ben, on a eu un sujet comme... Des fois on a eu des sujets comme, tu sais, sur le pot, puis on est trois à pas fumer du pot, fait qu'on est comme, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, on pourrait rien dire, on dirait, hey, on en fume pas, il y a du monde qui en fume,
c'est là cool. Tu chugs ta bière, puis tu tapes ça à sa tête le plus rapide possible.
Tu cales, puis tu tapes.
Je m'en viens de moins en moins capable de faire une telle action avec mon âge avancé, alors c'est ça devient difficile. Là.
Mais le premier épisode, c'est qui le public qui vous envoyait des questions?
Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait chacun écrit on avait chacun écrit comme une quinzaine de sujets, et puis on les a mis dans le sac, okay, puis y avait assez de sujets variés, et puis... En dedans d'une couple d'épisodes, on n'avait plus besoin d'utiliser notre propre sac. On pouvait utiliser le sac.
Puis là, écoute, au risque de sonner très cliché, on approche d'un certain nombre d'épisodes fatidiques pour vous, là.
C'est très vrai, oui. On approche du 100e épisode. Et justement, le 100e épisode va être enregistré live, justement, comme je viens de raconter, à la Chic Régal, qui est l'origine de Trois-Bières. Alors, on va enregistrer.
On retourne
live.
Au début, là. Là où ça a tout commencé.
Tel des saumons, on retourne aux sources. Et on lâche des œufs de sujets et de balado de division à Chic Régal le 10 mai dans l'après-midi. Venez nous voir en grand nombre. Il va y avoir un spécial de bière en plus.
Faut que je dise, on est très triste qu'on y va pas, nous.
Honnêtement,
quand j'ai vu la
nouvelle,
date,
là,
j'étais comme tabarnak, vraiment.
Si je pouvais, je cancellerais Comic-Con.
Vous viendrez au 150e.
Ouais. Honnêtement, on va être là, c'est sûr et certain. Mais fait que la Chic Régal, vous arrivez là. Le 100e épisode. Ça fait combien de temps pour 100 épisodes, dans le fond?
Pour 100 épisodes, je pense que ça fait à peu près 2 ans. Là, peut-être un petit peu plus que 2 ans, mais ouais. C'est quasiment à chaque semaine, fait que ouais.
Fait que vous êtes assidus pareil. Puis ce qui est le fun de la balado, en plus, c'est que les gens qui commencent aujourd'hui, qui se disent... J'entends parler de cette dit Chic Régal.
Mm-hmm.
J'entends parler de ces dit Trois-Bières.
Oui.
On peut commencer au début parce que c'est un podcast. Fait qu'on peut télécharger le premier épisode... Puis on start depuis le début, puis on s'enclenche une coupe.
Regarde-moi, quand j'y monte, j'y mets en ligne, puis je réécoute plus jamais, à moins qu'il faut que j'aille chercher des extraits sonores pour raison X. Alors, je sais pas si je conseillerais à quelqu'un d'aller dans le backstory, mais regarde, si il y en a qui le font et c'est clairement ça leur fait plaisir, alors tant mieux pour eux.
Moi, je pourrais pas le faire, en tout cas. Pour vous autres, je le suggère, parce que quand je vous ai découvert, je pense que j'étais à épisode 35.
Okay.
J'étais un peu en retard. Puis, je faisais beaucoup de char dans le temps. J'ai downloadé les 35 épisodes. Je suis parti tout de suite. J'ai pogné le plus que je pouvais par en arrière. Puis après ça, j'ai le temps de rattrapage. Puis je downloadais les nouveaux. Fait que j'étais rendu là à date. Puis je fais souvent ça avec mes podcasts. Mais c'est le fun parce que des fois, quand tu pars tout de suite, s'il y a une petite inside ou s'il y a un petit quelque chose. Puis je suggère pas ça pour tout le monde. Il faut pas virer fou.
J'essaie d'être content de pas trop créer de insight parce que je veux que ce soit abordable.
Et temporel,
la personne.
Exactement.
Puis tu sais, je répète souvent des détails parce que je veux que la personne qui l'écoute pour la première fois manque pas des détails justement de backstory ou des trucs du genre. Là. Je veux que n'importe quel premier podcast marche. Là.
Mais tu sais, moi je tiens à dire premièrement, je suis content de voir des gens qui se rendent à 100 épisodes. C'est sûr que certains, ça m'inspire beaucoup, puis ça me fait doublement chier de le manquer. Allez écouter Trois Bières. Premièrement, des chic types. Il y a une genre de famille un peu de podcasting québécois qui existe, puis il y a une ambiance comme ça. Puis les gars, vous avez été super accessibles. Je dis les gars, mais les gens de Trois Bières.
Oui, tout
le monde, je ne veux pas mettre un genre spécifique là-dessus, mais vous avez été super accessibles dès le départ. On est arrivé, nous autres, là, on arrive comme un cheveu sur la soupe. Let's go, Geek Collectif, 38e épisode. Mais honnêtement, vous êtes un des podcasts que, au départ, on a parti cette aventure-là, puis je vais parler pour moi-même.
Mm-hmm.
J'écoutais des podcasts américains, puis je connaissais fuck all des podcasts québécois, puis dans ma tête, je venais de réinventer la soupe.
OK, ouais.
Donc, à ce moment-là, je me suis mis à écouter qu'est-ce qui existait, puis j'ai fait « Hey, fuck, OK, il y a du stock québécois qui existe, c'est de qualité, c'est le fun, ça me fait rire. Allez à Chic Régal, puis participez à ça live. Il y a eu des gens aussi de Pas de problème qui faisaient des épisodes live. Mm-hmm. » Puis c'était vraiment cool de voir ça d'un certain enregistrement, puis de voir ça différemment, tu sais.
Mais faut pas que tu vois ça nécessairement comme un enregistrement de podcast non plus.
C'est juste un event, c'est le fun.
Il y a une animation dans un sens, c'est le fun.
Ouais, c'est un show live, justement.
C'est ça.
Pour notre épisode live, on va faire notre formule blitz. On va parler de plein de sujets parce que j'imagine que parler de 15-20 minutes d'un sujet devant une foule, ça risque de pas être le fun.
C'est ça, je l'ai dit, il n'y aura pas trois sujets un épisode.
Il
va y en avoir normal,
75 ou quelque chose de même.
Il risque d'avoir une couple de shooters parmi les trois bières, j'imagine.
Je sais pas si ça va se produire.
Moi, quand je les écoute, parler d'un sujet, souvent, il me semble Pierre-Luc, il parle qu'il aime pas bien les shooters. Toi
et
non
ça, ça
t'arrive.
Hey, je m'en viens vieux, là. Je suis encore capable d'en prendre, là, mais. Hey.
Mais si je me souviens bien, Pierre-Luc, si tu y mets un peu de pression des pairs, là, il va le prendre, le shooter.
On pourrait y miser des shooters pour.
C'est très possible.
C'est
ouais.
Ça, mais
fait que dans le fond, épisode, ce que tu dis, c'est qu'on n'envoie certainement pas un représentatif de nous autres pour vous payer un coup pendant que.
Vous êtes maître de votre destin, les gars.
C'est pas compliqué, pas là, surtout avec Pierre. On fait un gamble zombie-dice.
Et voilà. Mais écoute, Yannick, honnêtement, premièrement, merci d'être venu nous jaser. Parce
merci
c'est cool,
d'avoir invité.
Regarde, t'arrives, t'es multifacette, tu nous parles d'un paquet d'affaires, tu te le quittes. Merci d'être venu avec nous autres, merci de partager avec nous autres. Je pense que les gars, on a-tu un mot de la fin, on a-tu quelque chose, y a-tu quelque chose que Eric t'aurais voulu poser comme question puis t'as pas eu le temps pis...
J'avais une question puis c'est des questions inside geek jeux vidéo un peu, mais surtout parce qu'on en revient sur le sujet de Tribute. En passant,
je
trippe bien raide sur Tribute depuis le début là.
Oui, t'as mentionné que t'amènes un de nos jeux, Wizorb.
J'adore. Wizorb, c'est une chose, mais j'ai adoré Scott Pilgrim. Je l'ai acheté au PS3. Puis j'adore tout ce qui est 2D. Puis Metal Slug, c'est un des jeux que j'ai dépensé bien des 25 sous dans ma jeunesse.
Mm-hmm.
Fait que Mercenary King, ça me revient. Même si c'est pas le même genre de jeu, d'après moi, c'est quand même. C'est clairement inspiré de ça à quelque part. Mercenary King, il va aller sur d'autres consoles.
On veut l'envoyer sur d'autres consoles.
C'est juste ça que je voulais entendre, je comprends ça. Là, je sais pas que ça marche.
C'est plus de faire... présentement, c'est comme Mercenary King est comme une plante.
Ouais.
Il faut qu'on soit capable de l'empoter sur d'autres, dans d'autres pots.
Qu'est-ce qui est important, c'est le vouloir de ça. C'est toujours important pour moi, surtout dans cette époque.
Mais on veut aller sur Vita, on veut aller sur plein d'autres places. Présentement, on a une exclusivité avec Sony
pour
PS4. Mais par la suite, on veut aller sur le plus de plateformes possibles. Ça va juste dépendre de c'est quoi le travail impliqué pour justement pour porter ces jeux-là. Et comment ça va fonctionner. Là.
Cool.
Mais on veut aller à plein de places.
Une dernière chose, oui? c'est quoi que vous envisagez dans le futur aussi pour Tribute au niveau des jeux? Ça va rester dans le 2D, c'est une marque maintenant. Là,
oui,
vous
n'allez
pas, ça c'est sûr et certain.
Aujourd'hui, j'ai montré sur notre Twitter le logo de notre prochain jeu qui s'appelle Curses in Chaos, qui est réellement Monsieur Green est 16 bits, celui-là il est 8 bits, mais il est plus, toutes les animations ont plus de frames que n'importe quel jeu de NES que tu as vu dans ta vie. Alors tout il est animé sans aucun line art. Fait que c'est tout des aplats de couleurs.
Wow.
Oh. C'est tout des aplats de couleurs et des créatures. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Comme on le présente à PAX cette semaine et puis on est très heureux de ça.
C'est un peu un exclusif en ce moment. Ça commence. Hein,
et
ouais.
Puis, comme exclusivité, je peux dire que Sony est très intéressé à l'amener sur Vita. Alors, il y a des très bonnes chances qu'en automne, cet automne, Curses in Chaos va être sur Vita. Et puis, c'est ça, c'est un jeu simili arcade, juste sur un écran, qui est vraiment le fun. Et puis, c'est ça, si vous avez des auditeurs qui sont à Boston, qui sont à PAX, vous allez pouvoir jouer. Et puis, on a commencé à dessiner des plans pour faire une soirée où ce qui serait le démo serait joué à Montréal. On n'a pas encore finalisé ça, mais ça pourrait se produire bientôt.
Ben, santé et succès à Tribute,
ben,
sérieux.
Merci beaucoup,
ouais. J'adore les jeux vidéo qui mettent la Montréal sur la map comme ça. Puis c'est grâce à plein des avantages qu'on a ici. Puis ça me fait vraiment triper. Puis je suis content de voir que Tribute, on les a pour un petit bout encore. Que tu sois fier de.
On est carrément pour un petit bout. On est là pour un petit bout, ouais.
Good, good.
Là, tu mentionnais, Yannick, sur Twitter, tu as donné un exclusif. Les gens qui veulent suivre. Tribute Games.
C'est at Tribute Games pour ça, la compagnie. C'est moi pour la plupart qui run le compte là, puis aussi pour Tribute Games sur Tumblr. Fait que c'est moi qui run ça, qui retweet, qui répond aux gens et puis qui anime ce feed là.
Fait qu'on n'envoie pas les sujets à Tribute Games.
Non, les sujets, tu les envoies à Trois Bières ou sur le Facebook de Trois Bières. Mais tu peux envoyer des sujets à Tribute Games, mais je vais savoir. Ça va être moins.
C'est bizarre un peu.
Donc à ce moment-là, at Yannick Belzile sur Instagram pour voir ton merveilleux artwork.
Ah ben oui, merci beaucoup. Oui, ben justement, comme quand je dessine, je fais mes pratiques de dessin. Quand je dessine pour moi-même, je fais des trucs pour moi-même, j'y mets sur mon Instagram, oui.
Puis les gens qui veulent interagir avec toi, qui veulent te parler, te poser des questions, on te rejoint sur...
At Yannick Belzile sur Twitter, où est-ce que je dis des jokes épaisses et j'essaie de faire juste des jokes comme moi qui vont me faire rire moi-même. Idéalement, ça fait rire d'autres gens. Jeudi soir dernier, j'ai live tweeté mon roulage de scène qui était vraiment merveilleux. Écoute, à un moment donné, là, j'étais bien parti, mais à un moment donné, il y avait des lyres turcs dans mon pot. Là. Ça a été un événement incroyable.
C'était quoi le hashtag qu'on peut suivre?
C'était hashtag roulage.
Okay.
Cherchez le hashtag roulage pour voir mes aventures dans le roulage de scène.
Tu peux confondre certains partisans du Blogpot.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Milter, les gens qui veulent te suivre?
Xbox One, ben Xbox Live, tout court, puis Instagram, c'est Milter187, et non Zombie Milter, comme André a mentionné tantôt.
Pardonnez-moi!
J'aime son feed d'Instagram, parce que je sais qu'est-ce qu'il lit à chaque soir. Ouais, il fait
exactement.
Sa capture, puis moi j'aime ça, puis je suis comme, ah oh, ouais.
Puis je spoil pas trop, parce que j'essaie de couper le texte, à part quand c'est quelque chose comme un ou tu sais, quelque
un
phrase drôle, là, tu sais, quelque chose. Sinon, ben Facebook, mon nom, Twitter, Zombie Milter. Puis, c'est ça. Snapchat, ZombieM, envoyez-moi ça, les fans. Vous savez de quoi je parle.
Éric, les gens qui veulent interagir avec toi?
Montréalien, un peu partout sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Puis Priced, 187 sur BattleNet.
Ça, c'est moi.
Priced, 1387.
Okay,
excuse-moi, t'as raison. Ouais. Priced, 1387 sur BattleNet. J'étais un gros trippé de Blizzard, puis ça, on le sait, là, puis... Je suis prêt à n'importe quoi. Là. Tu pourrais peut-être jouer une game d'Hearthstone contre moi pendant que je chie. C'est possible.
C'est merveilleux. Pour les gens qui voudraient voir mes photos de street art, on suit Uzumaki QC sur Instagram. Sinon, je suis pas mal partout avec Uzumaki QC. Steam, Twitter, etc. André Paquette sur Facebook. Nous sommes le Geek Collectif, disponible dans vos oreilles, via Internet, via iTunes. On accepte les dons de 5 étoiles et moins. Mais 5 étoiles, précisément.
Comment c'est bon, là, donner 5 étoiles, là?
Bon, vous voyez, un podcasteur émérite de 100 épisodes nous donne sa cote à ce moment-là.
Faut que vous venez écrire « Gab est nice » comme commentaire.
Vous pouvez faire ça, mais ouais. Regarde, je vais pas commencer sur... La qualité relative de différents podcasts gays au Québec. Je vais pas commencer là-dessus. C'est clair que vous êtes en train d'écouter un des meilleurs puis un des plus de fun.
Ben, merci beaucoup, on va le prendre. Donc, @geekcollectif sur Twitter, facebook.com/geekcollectif le podcast, podcast@geekcollectif.com.
André, j'adore comment est-ce qu'il voit ses propres cues d'enregistrement.
Ah, je me mets les cues d'enregistrement, c'est débile. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Yannick, on te met sur le spot. T'as le choix de choisir une toune qui va avoir un cover exécrable de flûte.
Un cover exécrable de flûte? Painted Black, là. Y a-tu un...
YouTube va l'avoir, on va se forcer.
Excellent. Donc, Painted Black des Rolling Stones, asti.
Painted Black, Rolling Stones, Flute Drop. Milter?
Bonne soirée.